Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Perrine.
Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. On est ravis d'être avec vous ce matin. Salut les amis.
Hello.
Bonjour.
Fait un petit peu frais, j'imagine que vous aimeriez peut-être rester sous la couette, prolonger un petit peu cette matinée, mais on va vous aider à vous réveiller. On a plein de choses à vous raconter, plein d'infos à vous donner ce matin, notamment la visite de ces deux ministres à Marseille, Perrine.
Marseille qui attend des actes concrets dans la lutte contre le narcotrafic. Gérald Darmanin, Laurent Nunez sont effectivement sur place. Ils vont rencontrer la famille de Mehdi Kessassi, assassiné il y a une semaine. Son frère, Amine, le courage de son frère, les mots très fort de son frère, je suis debout, je suis là, levez-vous. Il appelle à une mobilisation massive samedi et il sera l'invité exceptionnel ce matin d'Apolline de Malherbe à 8h30.
Mais l'actu aujourd'hui, c'est aussi le froid, je le disais, et même la neige et le verglas sur les routes. Attention, on va en parler tout de suite avec Kevin, les prévisions météo.
Votre météo entre mer et montagne avec la Clémentine de Corse. Clémentine de Corse, fière et tellement corse.
La météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France.
La météo avec Generali. Préparez votre futur ici et maintenant. Generali, assurez vos vies.
Avec des averses de neige repérées un petit peu partout aujourd'hui, Kevin.
Oui, en effet, c'est le cas actuellement entre la Bretagne, la Normandie, la région centre, les Hauts-de-France et puis évidemment les reliefs de l'Est. Nous sommes ici au niveau de l'autoroute A43, c'était un petit peu plus tôt cette nuit, voilà, avec une neige qui n'a pas de difficulté à tenir au sol. C'est compliqué hein, sur d'autres axes. Regardez, on est ici dans le département du Jura, à peu près 900 000 mètres d'altitude. Bon, voilà, ça accroche clairement la route. Les opérations de déneigement et de salage ont évidemment débuté. C'est le cas aussi en Normandie, on vous donne une info. Opération de déneigement sur l'autoroute A11 dans le secteur de Chartres, parce que les averses nous concernent dans cette zone. Ce sera vrai une grande partie de la journée, hein, avec ce ciel de traîne qui va rester assez actif sur les bords de Manche. Et puis avec ces autres flocons de neige également annoncés en direction de l'Est, vers l'Alsace, vers le Jura ou encore les Alpes du Nord, basse altitude, hein, 400 mètres, peut-être même jusqu'en fond de plaine, jusqu'en fond de vallée. Les températures, je l'ai quasiment généralisé ce matin, y compris dans les centres-villes. Hein, vous voyez en effet les valeurs qui s'affichent cet après-midi, on aura jusqu'à 17 degrés au meilleur moment de la journée, évidemment, pour Bastia.
C'était votre météo entre mer et montagne avec la Clémentine de Corse. Clémentine de Corse, fière et tellement corse.
C'était la météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France.
C'était la météo avec Generali. Préparez votre futur ici et maintenant. Generali, assurez vos vies.
6 heures, très bon réveil, bon début de journée. On est ravis de vous accueillir avec Dominique et bienvenue si vous nous regagnez, vous nous regardez sur les BFM locales. Les conditions, on vient de le voir, sont hivernales pour aujourd'hui. Du froid, des giboulées de neige, un risque de verglas, prudence sur les routes. 50 départements vigilance jaune. Nous serons dans les Vosges, on trouvera Kevin Drouan et où l'on se réveille ce matin sous un manteau blanc.
Marseille attend des actes forts de l'État face au narco-banditisme. Gérald Darmanin et Laurent Nunez se rendent sur place aujourd'hui après l'assassinat de Mehdi Kessassi. Ils rencontreront notamment sa famille. Son frère sera l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe.
Les propos choc du chef d'état-major des armées. Il appelle les maires à préparer la population à une possible guerre contre la Russie. Il affirme qu'il faudra accepter de perdre nos enfants. Une déclaration qui provoque une vive polémique, vous l'entendrez, au sein de la classe politique.
Et dans le même temps, le gouvernement met en ligne ce matin un guide de survie, 30 pages, censé préparer les Français à tout risque majeur. À 6h15, 2 minutes pour comprendre ce manuel de crise.
Le froid gagne en intensité ce matin, associé à des averses de neige. Prudence donc, si vous prenez la route, ça risque d'être extrêmement glissant. Il y a quand même 50 départements, je vous le disais en titre, qui ce matin sont en vigilance jaune, neige et verglas.
Dont les Vosges. On va partir tout de suite retrouver Kevin Drouan. Kevin, on s'est couché hier sous les flocons à Gérardmer, célèbre station de montagne. On s'est couché sous les flocons et ce matin, ce sont les saleuses qui sont en action.
Oui, effectivement, c'est nécessaire, hein, parce que vous le voyez, il y a quelques centimètres ici dans le centre-ville de Gérardmer. On est à peu près à 675 mètres d'altitude. On a 2 à 3 centimètres ici dans le centre-ville et 7 centimètres sur les parties la plus haute. Et donc, il y a tout un dispositif de déneigeuses, de saleuses comme ici qui sont en action. Et je suis avec Nadine Bassière. Bonjour. Vous êtes adjointe aux travaux ici à la ville de Gérardmer. Il y a à peu près 120 km de voirie ici à traiter chaque jour. Qu'est-ce qu'il en est ce matin? Parce que c'est la totalité. C'est un événement qui est un peu plus dense que prévu.
Oui, effectivement, on a été surpris par la quantité de neige.
Alors, Kevin Drouin, on entend, on est en train de reprendre Kevin, on entend beaucoup les saleuses.
Oui, on entend les saleuses, mais on n'entend pas Kevin.
Ça prouve qu'elle fonctionne, en tout cas. Kevin, on le disait, un peu plus de 50 départements ce matin en Alsace.
Oui, et des axes très compliqués. Hein, la Nationale 5 dans le département, par exemple, du Jura. Nous avons aussi le Doubs qui est fortement touché par ces chutes de neige. On apprend également que l'autoroute A11 dans le secteur de Chartres, pour faire les choses, on est en gros entre le centre-ouest et l'Île-de-France est concerné par des opérations de déneigement. C'est difficile aussi localement vers Alençon avec les chutes de neige qui sont venues s'accumuler un petit peu cette nuit sur les hauteurs du Perche. Donc attention, c'est un épisode toujours en cours et qui doit vous inciter à la prudence ce matin.
Et regardez ces images qui nous viennent en direction de Valenciennes, Valenciennes dans le nord, où voilà les chutes de neige.
Et le marché de Noël.
S'invite ce matin au-dessus du marché de Noël. Donc soyez extrêmement prudents ce matin. Un chef d'état-major des armées devrait-il dire ça? Nombreuses réactions dans la classe politique après la déclaration choc de Fabien Mandon hier au Congrès des maires.
Oui, face à la menace russe, il estime que le pays doit accepter de perdre ses enfants, des mots très forts évidemment, tenus par le plus haut gradé français et qui suscitent la polémique dans la classe politique. Hortense Gérard, Milan Argelès.
Sur un ton à la fois posé et grave, le chef d'état-major des armées alerte les maires de France sur la menace russe.
Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Tollé à la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon fait part de son désaccord total.
Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires, ni qui que ce soit, à des préparations guerrières décidées par personne. Ni le président, ni le gouvernement, ni le Parlement.
Indignation également du côté du Rassemblement national. Selon Sébastien Chenu, le général Fabien Mandon dépasse son rôle avec, je cite, ses déclarations alarmistes. Le propos a aussi déplu chez les Républicains.
Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on soit dans un combat contre Moscou pour le moment. Je ne suis pas sûre qu'il faille alerter et inquiéter les maires lors du Salon des maires.
Selon nos informations, au sommet de l'État, le propos est jugé peut-être maladroit, mais sur le fond cohérent avec la gravité de la situation.
Lui ne compte pas se taire face aux narcotrafiquants. Je suis là, je suis debout, levez-vous. C'est le message d'Amine Kessassi qui appelle à une mobilisation massive à Marseille ce samedi pour la marche blanche en hommage à son frère assassiné la semaine dernière. Il sera l'invité d'Apolline de Malherbe tout à l'heure à 8h30.
Les ministres de l'Intérieur, de la Justice, Laurent Nunez, Gérald Darmanin sont attendus aujourd'hui à Marseille. Ils rencontreront la famille. Ne pas se laisser intimider malgré la peur. C'est le message aussi de Mohamed Ben Medour, figure du monde associatif à Marseille. Boris Karlamov avec Tanguy Tricouard.
Cela fait 12 ans que Mohamed sensibilise la jeunesse des quartiers nord au danger du trafic de drogue. Aujourd'hui, il est l'un des rares à s'exprimer publiquement sur le sujet.
Ça fait toujours peur, c'est sûr, quand on entend en boucle un crime d'avertissement. En gros, ça veut dire quoi? Arrêtez de parler, sinon on va vous tuer. C'est sûr que c'est inquiétant, mais en même temps, je me dis, demain, si on vient me flinguer à moi, c'est eux qui auront tout perdu.
Eux, ce sont les narcotrafiquants, responsables de la mort de centaines de personnes à Marseille.
Je dis que oui, il faut que les jeunes quittent ce chemin-là, il faut qu'ils reviennent à la raison. Et qu'on arrête de s'entretuer entre nous. Parce que, en fait, on a tous grandi ensemble et on se connaît tous.
Au-delà des paroles, il y a les actes. Mohamed a tenu à assister aux obsèques de Mehdi Kessassi et à soutenir son frère.
Amine était là devant moi, tel un enfant. Il avait un gilet lourd, gilet pare-balles. Il m'a pris dans ses bras, oh Mohamed, mon frère il est mort à cause de moi et tout. Donc il a commencé à culpabiliser, ce que je peux comprendre. Et je lui dis non Amine, il ne faut pas que tu dises ça.
Le prochain hommage à Mehdi Kessassi se déroulera samedi à l'occasion d'une marche blanche dans les rues de Marseille.
Les petits colis de moins de 150 euros en provenance des pays hors de l'Union européenne vont désormais coûter plus cher. Les députés ont adopté hier une taxe de 2 euros qui entrera en vigueur dès le 1er janvier avec, en ligne de mire, l'ultra fast fashion des plateformes chinoises.
Mais la bataille se joue aussi sur le terrain judiciaire. Les principales fédérations du commerce français attaquent Chine en justice pour concurrence déloyale, une action qualifiée de tentative de boycott par le géant asiatique. On voulait également vous parler ce matin avec Perrine de cette affaire qui illustre une nouvelle fois, malheureusement, la crise que connaît l'hôpital. Une femme de 99 ans a dû attendre 64 heures sur un brancard aux urgences du CHU de Rouen avant de pouvoir obtenir un lit d'hospitalisation.
De quoi provoquer la colère de sa petite fille qui témoigne ce matin sur BFM. Et elle dit, les soignants, ils y sont pour rien. Le fond du problème, c'est le manque de personnel et c'est le manque de moyens. Bettina de Guglielmo, Sachia Junière-Doubinski.
Sa grand-mère, Claire, 99 ans, a été emmenée aux urgences le soir du vendredi 17 octobre par le SAMU suite à des difficultés respiratoires. Le diagnostic est rapidement posé, un œdème au poumon. Elle est mise sous oxygène et perfusée le soir même, mais toujours dans son brancard, faute de lit disponible. Aline, sa petite fille, elle-même infirmière, lui rend visite le lendemain matin.
En fait, on va nous annoncer qu'elle est toujours aux urgences sur le brancard. On aura ramené à manger pour elle, juste pour amener quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. L'aide-soignante va nous remercier parce qu'elle n'avait pas assez de repas pour pouvoir nourrir tout le monde.
Aline et sa mère se relaient tout le week-end au chevet de la presque centenaire. Les soignants désolés leur annoncent ne pas savoir quand elle pourra être transférée dans un lit.
Et en fait, elle va passer 64 heures sur ce brancard du vendredi soir jusqu'au lundi début d'après-midi où elle sera transférée. Les soignants, en fait, font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont.
Claire aura été hospitalisée un peu plus d'une semaine avant de rentrer chez elle, fatiguée mais en bonne santé. Avec plus de 200 passages par jour aux urgences du CHU de Rouen, cette histoire est malheureusement un exemple parmi tant d'autres.
Bon, en tout cas, ce n'est pas une situation qui est exceptionnelle comme pourrait répondre la direction du CHU. Et on voit de la détresse pour les patients, mais aussi pour nos collègues soignants et médecins. Et ça ne se passe pas qu'au CHU de Rouen. Hein.
L'UNSA demande à l'Agence régionale de santé de Normandie plus de moyens, plus de lits d'hospitalisation et plus de personnel pour prendre en charge les patients.
Comment éviter la surchauffe de nos factures d'électricité? Et évidemment, avec la baisse des températures drastiques, la tentation, elle est là de pousser un peu le chauffage.
Mais le risque, c'est de se retrouver à payer très cher, beaucoup trop cher. Pourtant, il y a des astuces pour faire des économies. Regardez ce sujet de Jeanne Daudet, Margot Visada, Jérémy Brossard, avec Blandine Dalena.
Même lorsque Sandrine travaille depuis chez elle, pas question de chauffer toute sa maison.
C'est là que je travaille et donc je chauffe juste cette pièce-là pour pas avoir trop de frais d'électricité.
En effet, son logement de 110 mètres carrés est entièrement chauffé à l'électricité. La facture peut grimper très vite. Sandrine fait donc tout pour consommer le moins possible.
On essaye de faire des petites choses, le boudin pour éviter la froideur de la porte. On va changer bientôt les volets pour un peu plus d'isolation. Et il y a 2 ans, on a investi dans des panneaux solaires qui permettent de faire un peu de production d'électricité.
Cette mère de famille a opté pour un contrat au tarif réglementé. Mais si elle veut faire encore plus d'économies, selon certains spécialistes, Sandrine devrait changer de contrat.
Il y a des offres à moins 20% par rapport au tarif réglementé, ce qui est un écart vraiment important. Pour une famille qui se chauffe à l'électricité, par exemple, ça va être plus de 300 euros d'économie sur l'année.
Dernière astuce, selon HelloWatt, baisser la température d'un degré entraîne une économie de 7% sur sa facture.
L'astuce du boudin, ça paye toujours,
oui,
le boudin.
Efficace,
non, c'est bien efficace,
boudin,
le boudin. Avec une petite tête de serpent, disait Emmanuel, le petit boudin avec la tête de serpent devant la porte.
Ou de basset.
Ou de basset. Ah oui, la tête de basset.
Le sens de la déco d'Emmanuel, quand même. Ça
le boudin à tête de basset.
Je me demande à quoi ressemble votre logement.
Eh ben, vous ne seriez pas déçus.
On veut une photo du boudin à tête de basset. Allez, on va parler de toute autre chose. À présent, enfin du froid, on continue avec le froid, cette ambiance un peu hivernale, cette ambiance de Noël. Vous savez qu'elles arrivent par sac entier. On va parler des milliers de lettres avec cette petite écriture enfantine. Et dessus, la précieuse liste de cadeaux au Père Noël.
Est-ce qu'ils sont gourmands cette année, vos enfants? Thomas Hermand est au secrétariat du Père Noël, qui a ouvert hier. Alors figurez-vous, je ne sais pas si vous étiez au courant, il se situe à Libourne, en Gironde, avec des dizaines de petits lutins, dont Thomas, du coup, qui ouvre un peu les courriers. Ça ressemble à quoi les demandes cette année, Thomas?
On demande beaucoup de grâce matinée, par exemple. Non, je rigole. Non, mais les courriers, c'est assez marrant. Regardez, déjà, on demande, on prend des nouvelles des lutins, on demande si les reines et le Père Noël vont bien. Et puis, il y a aussi, on peut penser souvent qu'on demande des cadeaux, mais non, regardez, on vous parle également des tétines. Tu vas être fier de moi, Père Noël, l'année dernière, je me suis débarrassé de ma tétine. Certaines sont même dans les enveloppes, et une soixantaine de lutins qui ouvrent le courrier ici chaque jour, eh bien, traitent tous ces courriers. Je rappelle que ça a ouvert hier, ce nouveau secrétariat du Père Noël. Bonjour, bah vous êtes le directeur, David.
Bonjour.
Bon, comment ça se passe depuis hier?
Écoutez, ça a démarré hier, ça y est, c'est parti. Les enfants vont enfin pouvoir écrire au secrétaire du Père Noël pour qu'on puisse effectivement leur répondre dès aujourd'hui.
Il y a déjà du courrier ou ça arrive encore? On attend encore un peu beaucoup de lettres?
On a déjà reçu du courrier, beaucoup de courriers, mais grâce à vous et à partir de maintenant, on va recevoir énormément puisqu'on va répondre à plus de 30 000 enfants quasiment tous les jours.
On ne demande pas que des cadeaux, c'est ce que je disais justement?
En fait, on a l'impression qu'il y a une approche très tournée vers les cadeaux mercantiles, ce qui n'est pas forcément le cas. Au contraire, il y a beaucoup de bienveillance dans les courriers des enfants. Ils demandent beaucoup de temps passé avec la famille ou de faire en sorte que leur famille se porte bien. C'est essentiellement ça le message.
On parlait des tétines, il y a vraiment un bac à tétines ici pour les mettre toutes les tétines qui arrivent dans les enveloppes.
Il y a un phénomène incroyable qui prend une ampleur aussi de plus en plus importante, c'est que les enfants envoient au Père Noël leur tétine, histoire de passer dans un âge un peu supérieur. Et oui, on a à cœur, nous, de le conserver. Et vous les avez ici avec vous.
Bon, si je veux écrire au Père Noël, ça marche comment? C'est quoi l'adresse?
Simplicité enfantine. Il suffit de mettre Père Noël sur le courrier. C'est ça la magie de Noël. Et les enfants font le reste. Leur imaginaire laissera l'adresse faire. Et vous allez voir, et vous le voyez, il y a effectivement beaucoup de possibilités entre la rue des Étoiles, la rue des Rennes. Voilà, l'imaginaire des enfants fera le reste.
On voit le bureau du Père Noël juste devant nous. Je précise qu'il est encore un petit peu tôt. Il faut bien que les lutins et le Père Noël se reposent. On reçoit une réponse ou pas quand on écrit au Père Noël?
Vous recevrez systématiquement une réponse, surtout si vous écrivez avant le 20 décembre, ce qui permettra au Père Noël de pouvoir lui livrer chaque enfant avant le 24.
Merci beaucoup. Et vous avez jusqu'au 20 décembre, si vous pouvez espérer recevoir une réponse du Père Noël. Regardez, bon, j'insiste un peu avec mes tétines ce matin, mais c'est toutes les tétines que l'on reçoit quand même ici qui sont collectées dans ce bac. Une soixantaine de lutins, donc ouvre vos courriers jusqu'au 20 décembre. Ah, les tétines, ça fait son petit effet. Et là, regardez, ce matin, je prends la place du Père Noël. Il n'est pas là, donc on fait un petit peu ce qu'on veut quand même ce matin.
Hein.
C'est beaucoup mieux que lutin comme situation, je trouve.
Non, mais c'est vrai, et c'est quand même pas normal, ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est les lutins qui bossent pendant que le Père Noël, il se repose.
Ouais, grâce mat pour le Père Noël ce matin. Je vous promets que ça marche d'expérience. Le truc des tétines, c'est vraiment super. Si les enfants ne veulent pas lâcher leurs tétines, Noël, vous dites, bon, on envoie ça au Père Noël. Et il y a quelque chose d'assez psychologique qui fonctionne.
Mmh. Vraiment, ouais, d'expérience. C'est dingue,
d'expérience,
cette
ça fonctionne.
Des tétines. Bon.
Allez.
Pour arrêter de fumer, ça marche aussi.
Vous envoyez le briquet à l'intérieur de l'enveloppe.
Allez, restez avec nous dans un instant. Non, je ne suis pas sûre que ça fasse partie du kit d'urgence, les tétines. De l'eau, des conserves, des papiers d'identité en copie, des médicaments. Le gouvernement incite effectivement les Français à faire des kits de secours de minute pour comprendre ce guide de survie qui vient tout juste d'être mis en ligne.
Et puis l'écho avec vous, Emmanuel. Il paraît que les véhicules d'occasion électriques, c'est de plus en plus intéressant pour les acheteurs.
Alors, c'est encore un marché qui, jusqu'à il y a peu de temps, peinait à décoller. Mais là, la situation est en train de changer. J'y arrive.
Vous restez avec nous. On est de retour dans moins de 2 minutes. Doit-on se préparer à un conflit armé? La question est sérieuse ce matin, après les propos du plus haut gradé français, le chef d'état-major des armées, qui a suscité la polémique. C'était hier au Congrès des maires, en affirmant, je cite, que la France devait se préparer à perdre ses enfants. On y reviendra évidemment dans le journal de 6h30. Dans le même temps, le gouvernement met en ligne ce matin un guide de survie accessible sur l'ensemble des sites. 2 minutes pour comprendre avec vous, Perrine, à quoi il sert.
Mais déjà, il est costaud. Il fait une trentaine de pages et l'objectif, c'est de préparer les Français à tous les risques possibles. Alors, ça va des catastrophes naturelles, à la cyberattaque, au terrorisme et jusqu'au cas de guerre. Le gros morceau de ce guide, c'est le kit d'urgence. En clair, ce qu'il faut pour survivre pendant 72 heures, 3 jours d'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce kit d'urgence? On va avoir de l'eau, 6 litres d'eau notamment, des conserves, une radio à pile, des médicaments, une trousse de secours, les papiers, une copie de vos papiers d'identité, une batterie externe, de l'argent liquide. Et si ça, c'est pas clair, il y a même une petite vidéo explicative pour vous dire tout ce que vous devez emporter dans votre kit d'urgence. Au-delà de ça, il y a aussi les bons réflexes à adopter en cas de crise. Il y a 3 mots d'ordre selon le guide: se préparer, se protéger, s'engager. Et ça commence par connaître les numéros de téléphone d'urgence. Alors si je vous dis 15, 17, 18, vous les avez tous?
SAMU, pompier.
Voilà, par contre, si je... pompier et...
Police.
Ah, j'ai senti une petite... Et si je vous dis par contre 196, vous voyez, même moi je ne connaissais pas. Non, mais ça, c'est trop facile. Si vous êtes en mer, effectivement, en cas d'urgence, en mer. Savoir reconnaître les alertes aussi. Et là, c'est très pointu. Moi, j'ai appris quelque chose. Déjà, il y a 3 alertes en cas de danger. Une alerte, elle dure 1 minute et 41 secondes. Elle sonne 3 fois et il y a un silence de 5 secondes entre chaque alerte. Et enfin, il faut le faire pour soi, il faut aussi penser solidaire dans ce guide. On vous dit, vérifiez que vos proches âgés sont préparés. Eux aussi, je pense qu'on a une experte en la matière, n'est-ce pas, Anne ?
Oui, mais non, mais il peut arriver parfois qu'on se prépare, qu'on ait au cas où des pastilles pour décontaminer l'eau. C'est une question. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça rassure d'avoir un certain nombre d'éléments. C'est pas être angoissé, c'est au contraire se désangoisser.
Vous avez fait votre petit kit d'urgence à la maison ?
Avec ma sœur jumelle, on a fait ça il y a des années et on s'est dit au cas où, si un jour ça nous sert, il vaut mieux qu'on l'ait en trop que qu'on l'ait pas du tout.
Et vous avez tout ça dans votre kit d'urgence ?
On a à peu près tout ça.
Beaucoup plus. Même pas besoin du guide du gouvernement.
On a rajouté des couvertures de survie et une tente au cas où.
Voilà. Allez, si vous êtes tenté par un véhicule électrique, c'est peut-être le moment de céder à la tentation. L'écho tout de suite avec Emmanuel.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
Il faut dire, Emmanuel, que le marché des véhicules d'occasion électriques, jusqu'ici, peinait un peu à décoller.
Oui, d'abord parce que l'offre est restée longtemps limitée. Aujourd'hui, plus de 80% des véhicules vendus sur le marché de l'occasion ont encore un moteur thermique. 4% seulement sont des voitures électriques. Il avait du mal aussi à décoller ce marché de l'occasion électrique pour des raisons de prix, parce que jusqu'à ces derniers mois, entre l'électrique d'occasion et le thermique d'occasion, il y avait encore jusqu'à 5000 euros d'écart. Et puis, un acheteur potentiel sur deux continue d'avoir des doutes sur l'état et la longévité des batteries de ces modèles électriques.
Sauf que l'occasion électrique est en train de devenir plus attractive.
Oui, d'abord parce que l'offre est en train de s'étoffer. Aujourd'hui, une voiture neuve sur 4 vendues en France est une voiture électrique. Donc ces voitures électriques, elles vont se retrouver assez vite sur le marché de l'occasion, avec une nouvelle génération de batteries qui offre plus d'autonomie et de fiabilité. En général, il faut entre 1 et 3 ans avant qu'une voiture neuve se retrouve sur le marché de l'occasion. Donc ça commence à être maintenant. Et puis le prix moyen des modèles électriques d'occasion continue de baisser et se rapproche même du prix moyen des modèles thermiques, 20 000 euros environ. On a même, nous dit Autoscout 24, certains modèles électriques d'occasion qui sont moins chers que les modèles thermiques.
Merci beaucoup, Emmanuel. Grand frais devant la justice. Une cliente poursuit l'enseigne après avoir glissé sur une feuille de salade. Le procès débute aujourd'hui et ce sera la une du journal de 6h30. Il est 6h30, merci de démarrer la journée avec BFM TV. Grand frais devant la justice ce matin pour une feuille de salade. Une cliente affirme s'être blessée en glissant dans l'un des magasins de l'enseigne. Ce procès à l'américaine débute aujourd'hui.
Culpabiliser les consommateurs de drogue pour lutter plus efficacement contre les trafics. À Clermont-Ferrand, la mairie lance une campagne d'affichage pour cibler les clients.
Céder à la Russie les territoires occupés, réduire de moitié les effectifs de l'armée. C'est un plan de paix aux allures de capitulation que les États-Unis viennent de proposer à l'Ukraine. Des concessions auxquelles Kiev s'est toujours refusé. Nous retrouverons Antoine Delard en direct de Washington.
6h40, votre chronique santé. Dolirhume, Actifed, Dumex. Faut-il arrêter de prendre ses médicaments contre le rhume ? Aurel Gage nous dira qu'il y a bien d'autres manières de soigner un nez qui coule.
C'est donc un procès peu banal qui se tient aujourd'hui dans le Rhône, le type de procès qu'on a habituellement l'habitude de voir plutôt aux États-Unis. L'enseigne Grand Frais, que vous connaissez certainement, est poursuivie par une cliente qui affirme s'être blessée l'an dernier en glissant dans le magasin.
En glissant sur quoi ? Sur une feuille de salade. Résultat, elle a eu de multiples fractures, une entorse, des blessures dont elle garde aujourd'hui de nombreuses séquelles. Anatole Sos avec Pierre-Emmanuel Bessé et Léane Delabrière.
Pendant 7 semaines, Marilyn a dû porter ce plâtre après une fracture au pied et une entorse sévère. Une chute qui continue de l'handicaper au quotidien.
J'ai mal tous les jours, j'ai mal dès que je marche. Si j'ai marché un petit peu, j'ai mal même au repos finalement.
La responsable, selon elle, une feuille de salade tombée d'un rayon. Marilyn décide donc d'engager une procédure contre le magasin. Mais en février dernier, la justice tranche en faveur de Grand Frais et la condamne à payer 3 000 euros et à rembourser les frais d'avocat de l'enseigne.
Enfin, on m'a accusé en gros de pas savoir tenir sur mes jambes, quoi. Et que en aucun cas, le fait d'avoir un témoignage, etc., ne pouvait prouver que j'ai glissé sur une salade.
Marilyn poursuit son combat, mais dans ce type de dossier, la responsabilité est difficile à établir.
Il va falloir prouver que la chose, en l'occurrence inerte, était dans une position anormale ou dangereuse pour pouvoir engager la responsabilité. Est-ce que c'est anormal d'avoir une feuille de salade au sol déposée dans le rayon fruits et légumes? Ça, ce sera la juridiction d'apprécier.
Contacté, Grand Frais n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Kevin, vous le disiez dans sa météo, il y a une partie de la France ce matin qui se réveille sous les flocons. Attention sur les routes, ça peut être extrêmement dangereux. Illustration, ce matin dans le Doubs, à Pontarlier, on vous retrouve. Marie-Roux, on voit que ça coince déjà derrière vous à 6h30.
Oui, exactement. Sur la RN57, c'est un axe assez important ici puisque c'est la route qui permet de relier Pontarlier jusqu'à la Suisse et de nombreux frontaliers prennent la route pour aller travailler ce matin. Alors on circule très doucement, très lentement puisque cette nuit, il est tombé jusqu'à 4 cm de neige. On est à peu près à 830 mètres d'altitude et la neige, la particularité, c'est qu'elle tient au sol. Et ce matin, donc, seule une voie est vraiment praticable sur plusieurs portions. Les déneigeuses ont commencé le travail depuis l'aube, mais comme les températures frôlent les 0 degrés, la neige tient forcément au sol, donc c'est assez compliqué pour les automobilistes ce matin. Vous pouvez le voir sur ces images, ils circulent au pas, situation assez délicate, et ça risque de se compliquer dans la journée puisque Météo France a prévu quelques averses de neige en fin de matinée. Prudence donc si vous avez prévu de prendre la route.
Prudence à Pontarlier notamment, donc dans le Doubs. Merci beaucoup Marie-Roux, on reste évidemment avec vous. Vous nous tenez au courant de cette situation. La matinée, 6h34 sur BFM TV. Laurent Nunez et Gérald Darmanin sont attendus ce matin à Marseille. À Marseille, un déplacement conjoint du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi. Son grand frère, Amine, un militant engagé dans la lutte contre le narcotrafic, a promis hier de poursuivre le combat. Il sera l'invité exceptionnel d'Apolline de Malherbe à 8h30.
Un combat que l'État veut porter également contre les consommateurs. Hier, Emmanuel Macron s'en est pris, je cite, aux petits bourgeois des centres-villes qui financent le narcotrafic. À Clermont-Ferrand, justement, la mairie a décidé de s'adresser directement aux clients. Elle vient de lancer une campagne d'affichage. Antoine Fernandez avec Romain Etuin.
Une ligne de cocaïne qui se transforme en ligne de sang avec ce message en trois mots. La drogue tue. Dans les rues de Clermont-Ferrand, cette campagne de prévention n'est pas l'œuvre des services de l'État, c'est bien la mairie qui en est à l'initiative. Les Clermontois que nous avons croisés jugent le message efficace.
C'est une affiche totalement marquante, ça c'est sûr. Fait un peu peur.
On comprend bien le message et la gravité du sujet.
Je trouve que c'est bien de l'afficher et que tout le monde puisse le voir.
Ici, l'objectif est double. Prévenir sur les risques pour la santé du consommateur, mais aussi endiguer le trafic de stupéfiants et ses victimes directes ou collatérales dans cette ville de 150 000 habitants. Le maire de Clermont-Ferrand l'assure, sans consommateur, pas de trafic.
Si on assèche la demande, on va réduire l'offre. La drogue, c'est pas récréatif, c'est pas fun. La drogue, ça tue. Ça tue d'abord ceux qui la consomment et ça tue aussi tous ceux qui contribuent et qui participent au réseau.
À Clermont-Ferrand, au moins 5 homicides en lien avec le narcotrafic ont eu lieu depuis le début de l'année. Le constat du préfet du Puy-de-Dôme est le même. Selon lui, il faut viser le consommateur.
Les points de deal de Clermont-Ferrand, c'est 600 clients jour. Nous n'avons pas que des personnes qui sont dépendantes, ce qu'on appelle des junkies, il y a monsieur et madame tout le monde.
Un rapport publié par l'Office anti-stupéfiants cet été mettait déjà en évidence une intensification du trafic de drogue dans les villes moyennes. L'agence évoque même un tsunami blanc sur tout le territoire.
Donald Trump réussira-t-il en Ukraine ce qu'il a fait à Gaza? Kiev a reçu hier une nouvelle proposition de paix de la part des États-Unis. Mais voilà, les concessions proposées sont extrêmement lourdes pour le régime ukrainien.
Oui, cette feuille de route reprend en effet en grande partie les exigences de Moscou, dont la reconnaissance des territoires actuellement occupés par l'armée russe. On vous retrouve à Washington, Antoine Lard, un plan qui apparaît donc largement favorable aux intérêts russes.
Oui, en fait, ça fait plusieurs semaines qu'Américains et Russes discutent dans le plus grand des secrets. Et le plan qui est mis sur la table aujourd'hui ressemble clairement à une demande de capitulation de l'Ukraine. Selon cette feuille de route, Kiev devrait notamment céder l'ensemble du Donbass à la Russie, diviser par deux la taille de son armée, ou encore renoncer à ses missiles longue portée, c'est-à-dire ses armes les plus efficaces contre l'armée de Vladimir Poutine. Exit aussi le principe d'une force internationale déployée en Ukraine pour garantir la paix. À la place, le plan propose de transformer les régions de l'est de l'Ukraine en zones tampons démilitarisées. C'est présenté comme une façon d'empêcher toute nouvelle agression de Moscou. Alors on voit mal comment, en l'état, Volodymyr Zelensky pourrait accepter ce plan. Mais l'administration Trump est convaincue que les Ukrainiens sont en mauvaise posture sur le champ de bataille et qu'ils ont, dans ces conditions, tout intérêt à conclure un deal. Zelensky qui se retrouve donc à nouveau sous pression, surtout que Donald Trump veut aller vite. Il pense être en mesure de pouvoir forcer un accord, ou en tout cas un préaccord, dès la semaine prochaine.
Les villages, y compris dans des quartiers.
Merci beaucoup, Antoine Nelard. L'Assemblée nationale, à présent, l'Assemblée nationale qui a approuvé hier la mise en place d'une taxe de 2 euros sur les petits colis d'une valeur inférieure à 150 euros. Ces produits, vous savez, qui arrivent par centaines de milliers chaque jour depuis la Chine.
Ouais, une concurrence qui petit à petit étouffe le commerce traditionnel. Et on vous parle depuis des semaines de l'inquiétude des fédérations de vêtements, de jouets, même de la grande distribution. Eh bien, elles ont décidé de se réunir, c'est inédit, pour porter plainte ensemble contre Chine. Camille Fourier, Théo Bassilana et Adrien Spiteri.
Monoprix, Promode ou encore la coopérative U. Ces trois groupes ont un point commun. Ils ont engagé une action en justice contre Chine pour concurrence déloyale avec plus de 100 enseignes françaises.
Parce que c'est pas normal, ils peuvent pas produire, ils peuvent pas vendre à des prix concurrentiels, c'est impossible.
Je comprends que les commerçants en souffrent, forcément, les commerçants locaux.
Les marques reprochent aux géants asiatiques de ne pas respecter les réglementations imposées à tous les acteurs implantés en France.
Par exemple, vous voyez ici, il y a des tas de produits, eh ben, ils sont conformes par rapport à une question de qualité, par rapport à ce qui est annoncé sur la qualité, sur le grammage. Il y a un engagement, parce qu'il y a eu des normes, on lui a demandé de le respecter. Chine ne le respecte pas.
Une stratégie qui aurait permis au groupe de réduire ses coûts, d'accroître ses profits au détriment d'acteurs économiques français qui demandent aujourd'hui des dommages et intérêts.
La justice sera tranchée si oui ou non Chine a violé la loi depuis 5 ans et dans quelle mesure les entreprises peuvent obtenir un préjudice économique et moral. Et pour l'avenir, on entend s'assurer que cette concurrence cesse et on le vérifiera par tout moyen.
Chine dénonce une tentative de boycott et assure que ces accusations sont infondées.
Les plus belles femmes du monde ont rendez-vous la nuit prochaine en Thaïlande à l'occasion de l'élection de Miss Univers. Et c'est Miss France 2024 qui représentera nos couleurs.
Et oui, Eve Gilles, regardez, souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, elle était couronnée Miss France, première Miss aux cheveux courts. C'était une révolution à l'époque, elle avait d'ailleurs fièrement assumé. Alors l'élection de Miss Univers va se dérouler ici à Pakret, c'est en Thaïlande. Voilà, on va aller jusqu'en Thaïlande, Pam, Pakret, dans la banlieue de Bangkok, à plus de 9000 km de la France et de Kuaidipre, c'est assez difficile à dire, petite bourgade du Nord d'où est originaire la candidate française. Et je peux vous dire que là-bas, beaucoup ont déjà prévu de faire nuit blanche pour soutenir celle qui fait la fierté du village, Théodore Peterson et Bettina de Guglielmo.
C'est une véritable fierté dans cette commune du Nord, l'enfant du pays, sous les feux des projecteurs. Les habitants suivent son parcours depuis ses débuts, une femme humble malgré le prestige.
L'année où elle était Miss France, elle est venue plusieurs fois en roller chercher sa viande, mais on la reconnaissait difficilement, elle ne voulait pas se faire reconnaître. Elle est discrète comme toujours.
À la mairie, on ne cache pas sa fierté. Miss Univers ou non, pour le maire, le parcours de Eve est déjà une victoire.
On est dans un petit village rural et on est capable de produire Miss France. D'accord. Donc ils sont heureux et étonnés, heureux. Et voilà, si on va jusqu'à Miss Univers, bah, quoi demander de plus après. Hein.
Un soutien en France, mais également en Thaïlande où aura lieu le concours. Sa famille a fait le voyage pour l'accompagner et voir Eve dans son costume national, loin des plumes et des paillettes.
Sa marque de fabrique, c'est un petit peu les cheveux courts. Donc on a choisi le thème de Jeanne d'Arc, qui était une femme guerrière comme les Eve, une femme qui a défendu la France. Et une femme qui a fini sainte parce qu'elle prenait également la paix.
L'élection a lieu la nuit prochaine. La grande gagnante sera connue vers 5h du matin, heure française. Eve Gilles pourrait bien devenir la troisième Française sacrée Miss Univers.
Superbe costume.
On va retourner Périne, à Pontarlier dans le Doubs. Nous étions il y a quelques minutes retrouver Marie Roux parce que ça neige du côté de Pontarlier. Marie, pour ceux qui nous regardent ce matin, vous êtes où précisément ?
Eh bien écoutez, on est sur la RN57, cet axe qui relie la France jusqu'à la Suisse. On est à côté du secteur des hôpitaux, les hôpitaux neufs pour être exact. Et c'est sur cette route que deux intersections se rejoignent. C'est ce qui crée également un bouchon. Et puis il y a cette neige, 4 cm qui sont tombés cette nuit, qui complique les conditions de circulation. Même si les déneigeuses passent, la neige reste statique au sol. Elle reste bloquée puisqu'il fait assez froid. On frôle les 0 degrés actuellement.
Marie, les automobilistes, ils réagissent comment ? Ils sont surpris ou ils s'y attendaient ?
Eh bien écoutez, on vient de parler avec un automobiliste qui s'appelle Nabil, qui s'attendait à avoir des difficultés, à rencontrer des difficultés, mais finalement il a mis pratiquement une heure pour faire à peine 20 km. On roule au pas sur cette nationale alors que d'habitude, on peut rouler jusqu'à 110 km/h.
La condition de circulation difficile. Marie Simon Pérez de Souza, on va vous retrouver tout au long de la matinée et on va faire des points circulation régulièrement avec vous, Kevin, parce qu'il y a quand même 50 départements ce matin qui sont placés en vigilance neige et verglas.
On reste bien derrière les saleuses. Elles sont plusieurs centaines en ce moment sur les axes routiers. On reste bien derrière elles pour éviter la glissade.
Voilà, on suit la situation ce matin. Mais tout de suite, vos rendez-vous santé, culture et politique.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
La santé, on va continuer de parler un peu du froid, parce que vous savez, quand on sent l'hiver se rapprocher, on a tendance à prendre peut-être machinalement souvent ces médicaments. Si je vous dis Humex, Actifed, Dolirum, on cite plusieurs marques pour ne pas avoir de problème. Quand on a le nez qui coule ou quand on tousse, une question simple ce matin, docteur, est-ce vraiment utile ou alors est-ce que tous ces médicaments que je viens de citer, on peut les laisser au placard ?
Alors, pour faire court, oui, vous pouvez les laisser au placard, ça ne sert globalement à rien, voire à pas grand-chose, voire même c'est dangereux. Il faut bien comprendre que tous les signes que vous décrivez le plus souvent avec « j'ai de la toux »,« j'ai le nez qui coule »,« j'ai un peu de fièvre », tous ces rhumes, vous en ferez en moyenne 2 à 3 par an, la majeure partie du temps, c'est viral. Et en fait, vous allez vous en sortir tout seul, c'est bénin. Il faut juste donner un peu de temps au temps, tout simplement.
Oui, mais on n'a pas le temps. Parfois, on a besoin, quand on bosse, d'être opérationnel. Non, mais c'est vrai, il n'y a aucun médicament qui est efficace.
Alors, je vous propose qu'on essaie un petit peu de décortiquer les médicaments qui sont proposés et qui, maintenant, justement, sont plutôt déconseillés. On a dit, l'une des problématiques majeures, ça va être tout simplement d'avoir le nez pris. Quand vous avez le nez pris, je peux comprendre que lorsque, par exemple, vous avez un métier qui nécessite de parler, par exemple, présenter le journal comme ça, c'est compliqué.
Donc, c'est ce que Kevin a fait pendant plusieurs jours.
Dans ce genre de cas, on peut proposer de façon ponctuelle des médicaments où l'idée, ça va être de décongestionner le nez. Mais ils fonctionnent comment, ces médicaments ? Et c'est pour ça que maintenant, ils sont justement sur ordonnance. L'idée, c'est que la congestion, vous allez avoir les vaisseaux qui vont se dilater. Donc, on va essayer de les rétrécir. Donc, on va les vasoconstricter. Mais d'après vous, est-ce que quand vous prenez un médicament par le nez, il passe pas partout dans le corps ?
Si, j'imagine.
Oui. Donc imaginez que vous ayez des artères malades, des vaisseaux malades. Non. Vous pensez que c'est une bonne idée de les fermer, les vaisseaux comme ça ?
Non, certainement pas.
Donc vous avez un risque accru d'AVC dans de rares cas. Vous avez un risque accru d'infarctus pour finalement quelque chose qui est du simple confort, puisque vous allez vous en sortir et au final la durée des symptômes sera la même. Et il y aura même une accoutumance concernant un autre symptôme. Ça va être la toux. La toux, maintenant, les antitussifs, c'est déconseillé parce que il faut comprendre que la toux, ça va vous permettre d'évacuer le mucus et donc de permettre tout simplement à votre corps d'évacuer tous les restes parce que vous avez un risque de surinfection derrière. Donc on évite totalement ces deux médicaments.
Alors rapidement, Aurèle, quelques conseils pour s'en sortir sans médicaments.
On a ce qu'il faut. Je vous ai amené ma petite recette. Première chose, on va avoir de l'hydratation parce que ça fatigue. Deuxième chose, la seule molécule que vous pouvez vous permettre probablement, c'est le paracétamol pour la fièvre. Et puis, alors une chose qui a fait ses preuves dans un grand magazine scientifique, contre la toux, une cuillère de miel, ça fonctionne. Et d'ailleurs, même juste petite chose, c'était au-dessus de l'antitussif, donc avec moins d'effets secondaires. Donc vraiment, une cuillère à soupe de miel, ça marche. Et après un an.
Donc une tisane, oui. Du miel, un peu de repos.
Et par contre, il faut juste pour le miel, on rappelle pas avant un an, parce que là, il y a des risques. Pas
plus avant efficace que l'antitussique, le miel.
Nous voilà, pareil pour l'hiver. Merci Aurèle.
Alix, l'image du jour, un tableau de l'artiste Frida Kahlo.
Oui, alors on va regarder tout de suite ce tableau qui s'appelle Le rêve que Frida Kahlo a peint en 1940. Ce tableau va être mis aux enchères ce soir à New York. Il est estimé entre 40 et 60 millions de dollars et il pourrait devenir ce tableau l'œuvre la plus chère réalisée par une femme. On y voit donc l'artiste mexicaine dans son lit, au-dessus un squelette. Alors c'est un autoportrait, comme souvent d'ailleurs avec cet artiste. C'est un tableau assez rare puisque Frida Kahlo, on le sait, avait énormément de problèmes de santé. Elle a très peu peint. On compte 140 œuvres, dont une cinquantaine d'autoportraits. Et alors, le fait que ce tableau pourrait battre un record aux enchères, finalement, c'est assez étonnant, en tout cas ironique. Frida Kahlo était communiste, elle a toujours eu un œil suspicieux sur la question de la marchandisation de ses œuvres. C'est ce que nous a expliqué Inès Boitiot, grande spécialiste de l'artiste. On l'écoute au micro de Laura Champion.
C'est en effet une question qu'on peut se poser. Est-ce que Frida Kahlo aurait finalement apprécié que ses œuvres atteignent ses records, d'autant plus au regard aussi de toute la Frida Mania qui se développe autour de son image, où on voit ses autoportraits, voilà comme ça, qui décorent toutes sortes d'objets marketing, de la housse de coussin, au mug, etc. Donc c'est vrai que c'est en tout cas cette question interroge au regard de l'engagement politique communiste de Frida Kahlo.
Alors, record ou pas, on vous en parlera, on vous donnera la réponse demain dans la matinale.
En tout cas, je me dis avoir ça pour dormir dans sa chambre.
Vous saviez qu'elle avait vraiment un squelette au-dessus de son lit.
Ah bon, je trouve ça bizarre, le rêve. Parce que finalement, le rêve avec un squelette comme ça autour, c'est drôle de rêve quand même, non?
Écoutez, chacun...
Chacun ses rêves.
Chacun sa manière de s'endormir.
Merci Alix. Anne, on va parler politique avec vous et on va revenir sur ce sondage. Sondage est là pour BFM TV, qui nous apprend que les Français sont à bout et ne se sentent plus en sécurité nulle part.
Exactement, c'est sans doute lié à la succession de drames autour du trafic de drogue ces derniers jours. 64% d'entre vous se sentent désormais inquiets pour leur propre sécurité et 69% d'entre vous se disent même inquiets pour leur famille. Le trafic de drogue arrive très haut dans la liste pour expliquer ce sentiment. 84% des Français jugent que désormais le trafic de drogue est partout sur le territoire, y compris en zone rurale, y compris dans les petits villages, y compris dans des quartiers jusque-là préservés. Bref, le danger est désormais à chaque coin de rue ou presque. Les points de deal aussi, c'est ce que vous ressentez. Comment lutter? Vous êtes plus de 8 sur 10 à plébisciter en urgence les solutions suivantes. Renforcer la présence policière sur le terrain, durcir la justice des mineurs, durcir le code pénal, la sévérité des peines et suspendre les aides sociales pour les parents d'enfants délinquants. Alors, à votre avis, quel est le parti politique qui tire son épingle du jeu dans ce contexte?
Le Rassemblement national,
en effet, qui a fait de la sécurité le pilier de son discours politique et qui reprend toutes ses solutions en ajoutant un autre dossier, celui de l'immigration. On écoute Marine Le Pen.
Il faut reprendre la main et pour l'instant, la France reste le pays qui renonce en réalité à reprendre la main. Ce qui est un énorme problème car l'ensemble des pays européens sont en train de durcir leur législation dans la lutte contre l'immigration illégale de manière très importante. Dernière en date étant la Grande-Bretagne, mais c'est également le cas de l'Allemagne, c'est également le cas de la Suède et nous allons donc être le dernier pays à rester d'un laxisme absolu dans ce domaine.
Écoutez, macroniste, l'angle d'attaque, pour vous donner aussi les solutions dans les autres parties, c'est encore et toujours la délinquance des mineurs avec une demande de révision de l'excuse de minorité et désormais la supplique adressée aux consommateurs. Le chef d'État lui-même s'y est mis ces dernières heures en fustigeant, je cite, les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafiquants. Oui, parce que plus de consommateurs, plus de trafic.
Insécurité, délinquance, un besoin croissant, urgent de sécurité qu'expriment donc les Français à travers ce sondage. Ce sera aussi le thème, regardez, insécurité, délinquance, la France est-elle impuissante? Le thème du forum BFM TV ce soir avec Maxime Switek à partir de 20h45.
L'actualité ce matin, le froid qui s'installe, la neige qui s'étale avec des conditions de circulation très difficiles sur un certain nombre de départements, comme ici sur la RN 57 dans le Doubs. Nous serons en direct sur place, on fera un point circulation dans le journal de 7h.
Et puis à 7h10, la question du jour, justement avec cette chute drastique des températures, comment éviter Comment éviter la surchauffe de nos factures d'électricité? Charlotte Méritant vous dira comment économiser jusqu'à 100 euros par an.
7h, très bon réveil, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir avec Dominique, avec toute l'équipe de BFM Première. Alors que les conditions sont hivernales, ce matin, sur une grande partie du pays, froid, giboulée de neige, risque de verglas, prudence sur les routes. 50 départements sont en vigilance jaune. Nous serons notamment dans le Doubs, dans l'Orne, où l'on circule difficilement.
À la une également, les propos chocs du chef d'état-major des armées. Il appelle les maires à préparer les populations à une possible guerre contre la Russie et affirme qu'il faudra accepter de perdre nos enfants. Une déclaration qui provoque une vive polémique dans la classe politique.
Marseille attend des actes forts de l'État face au narco-banditisme. Gérald Darmanin, Laurent Nunez se rendent sur place aujourd'hui après l'assassinat de Mehdi Kessassi. Ils rencontreront sa famille. Son frère sera l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe.
Et puis la question du jour à 7h10. Comment éviter la surchauffe de nos factures d'électricité alors que les températures dégringolent? Charlotte Méritant nous dira comment économiser jusqu'à 100 euros par an.
On l'a vu il y a un instant dans la météo de Kevin, le froid qui gagne en intensité ce matin, associé à des averses de neige. Prudent si vous prenez la route, les routes sont glissantes. Il y a 50 départements qui sont placés en vigilance jaune et verglas.
Et on va tout de suite partir dans le Doubs, à Pontarlier. On vous retrouve, Marie-Roux. Et il neige depuis ce matin, il neige et ça a quelques conséquences sur la circulation notamment.
Oui, effectivement, la neige ne s'est pas arrêtée depuis cette nuit et c'est particulièrement difficile sur la RN57. Vous le voyez sur les images de Simon de Pires de Souza. La nationale est entièrement blanche. On circule au pas très doucement. On a environ 4 cm de neige qui sont tombées cette nuit. On est à peu près à 830 mètres d'altitude et la neige, eh bien, elle tient parfaitement au sol. La RN57, c'est l'axe qui relie Pontarlier à la Suisse et ce matin, seule une voie est vraiment praticable sur plusieurs portions. Les voitures progressent lentement et pour les poids lourds, c'est encore plus délicat. Les équipes de déneigement tournent depuis l'aube, mais avec les températures proches de 0 degré, eh bien, la chaussée reste très glissante et les routes secondaires du secteur le sont encore plus et ça ne devrait pas s'améliorer tout au long de la matinée puisque Météo France prévoit d'autres averses de neige, notamment en fin de matinée, ce qui risque de compliquer de nouveau les conditions de circulation.
Difficile ce matin pour les automobilistes dans le Doubs. Marie-Roux, Simon Pérez de Sousa, on va vous retrouver et suivre la situation avec vous tout au long de la matinée. On va prendre la direction de la Normandie, de l'Orne. Élise Philips, là aussi on attendait des chutes de neige, on en est où?
Mais écoutez, oui, il y a eu quelques flocons ici aussi qui sont tombés en Normandie, c'était prévu. Et depuis 5 minutes à peine, eh bien, il neige à nouveau. Et pour l'instant, cette neige tient, en tout cas sur le bas-côté. On peut voir sur ces images d'Agathe Pichon, cette neige au sol. On a hâte qu'il fasse jour pour pouvoir voir le paysage un peu mieux. Les champs aux alentours aussi qui doivent être tout blancs. En revanche, ici, contrairement à l'est de la France, pas de difficulté de circulation. On ne sait d'ailleurs pas si les déneigeuses ont fonctionné cette nuit pour saler les routes, mais les températures vont rester très basses toute la journée et donc ça pourrait faire en sorte que cette neige qui tombe à nouveau ne fonde pas tout de suite et reste au sol encore quelques heures.
Merci Élise. Kevin, vous suivez les routes, vous surveillez les routes pour nous. 50 départements en vigilance ce matin.
Oui, et un pourdoir principalement céleste, le Doubs et le département du Jura, National 2, National 57, où nous étions à l'instant avec notre envoyé spécial. 4 à 5 cm de neige des 800 mètres, c'est assez pour compliquer les conditions de circulation. Difficulté aussi, on l'a vu à l'instant en Normandie, mais aussi à l'est d'Aurillac sur la National 122. On fera un point d'étape régulièrement sur l'antenne pour vous dire où c'est compliqué. Restez bien derrière les saleuses et les engins de déneigement.
Les conseils de Kevin, réveil hivernal ce matin sur une grande partie du pays. Un chef d'état-major des armées devrait-il dire ça? Nombreuses réactions ce matin après la déclaration choc de Fabien Mondon au Congrès des maires.
Oui, face à la menace russe, il estime, écoutez bien, que le pays doit accepter de perdre ses enfants. Des mots très forts évidemment, tenus par le plus haut gradé de France et qui suscite une vive polémique dans la classe politique. Hortense Gérard avec Milan Argelas.
Sur un ton à la fois posé et grave, le chef d'état-major des armées alerte les maires de France sur la menace russe.
Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Tollé à la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon fait part de son désaccord total.
Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires, ni qui que ce soit, à des préparations guerrières décidées par personne. Ni le président, ni le gouvernement, ni le Parlement.
Indignation également du côté du Rassemblement national. Selon Sébastien Chenu, le général Fabien Mandon dépasse son rôle avec, je cite, ses déclarations alarmistes. Le propos a aussi déplu chez les Républicains.
Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on soit dans un combat contre Moscou pour le moment. Je ne suis pas sûre qu'il faille alerter et inquiéter les maires lors du Salon des maires.
Selon nos informations, au sommet de l'État, le propos est jugé peut-être maladroit, mais sur le fond cohérent avec la gravité de la situation.
Lui ne compte pas se taire face aux narcotrafiquants. Je suis là, je suis debout. Levez-vous, c'est le message d'Amin Kessassi qui appelle à une mobilisation massive après-demain, samedi, pour la Marche Blanche en hommage à son frère assassiné à Marseille la semaine dernière. Il sera d'ailleurs l'invité d'Apolline de Malherbe à 8h30.
Laurent Nunez et Gérald Darmanin sont attendus sur place aujourd'hui. Ils rencontreront la famille. Ne pas se laisser intimider malgré la peur. C'est aussi le message de Mohamed Ben Medour, figure du monde associatif à Marseille. Boris Karlamov et Tanguy Tricoire.
Cela fait 12 ans que Mohamed sensibilise la jeunesse des quartiers nord au danger du trafic de drogue. Aujourd'hui, il est l'un des rares à s'exprimer publiquement sur le sujet.
Ça fait toujours peur, c'est sûr, quand on entend en boucle un crime d'avertissement. En gros, ça veut dire quoi ? Arrêtez de parler, sinon on va vous tuer. C'est sûr que c'est inquiétant, mais en même temps, je me dis, demain, si on vient me flinguer à moi, c'est eux qui auront tout perdu.
Eux, ce sont les narcotrafiquants, responsables de la mort de centaines de personnes à Marseille.
Je dis que oui, il faut que les jeunes quittent ce chemin-là, il faut qu'ils reviennent à la raison, et qu'on arrête de s'entretuer entre nous. Parce que, en fait, c'est... On a tous grandi ensemble et on se connaît tous.
Au-delà des paroles, il y a les actes. Mohamed a tenu à assister aux obsèques de Mehdi Kessassi et à soutenir son frère.
Amine était là devant moi, tel un enfant. Il avait un gilet lourd, gilet pare-balles. Il m'a pris dans ses bras. « Oh Mohamed, mon frère, il est mort à cause de moi et tout. » Donc il a commencé à culpabiliser, ce que je peux comprendre. Et je lui dis « Non Amine, il ne faut pas que tu dises ça. »
Le prochain hommage à Mehdi Kessassi se déroulera samedi à l'occasion d'une marche blanche dans les rues de Marseille.
Nouvelle illustration de la crise de l'hôpital. Une femme de 99 ans a attendu pendant 64 heures sur un brancard aux urgences. C'était au CHU de Rouen.
Oui, avant d'obtenir un lit d'hospitalisation, sa petite fille témoigne. Les soignants n'y suivent pour rien, dit-elle. Elle déplore surtout le manque de moyens et de personnel. Bettina Guglielmo, Saskia Juné-Dubinski.
Sa grand-mère, Claire, 99 ans, a été emmenée aux urgences le soir du vendredi 17 octobre par le SAMU suite à des difficultés respiratoires. Le diagnostic est rapidement posé, un œdème au poumon. Elle est mise sous oxygène et perfusée le soir même, mais toujours dans son brancard, faute de lit disponible. Aline, sa petite fille, elle-même infirmière, lui rend visite le lendemain matin.
En fait, on va nous annoncer qu'elle est toujours aux urgences sur le brancard. On aura ramené à manger pour elle, juste pour amener quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Et l'aide-soignante va nous remercier parce qu'elle n'avait pas assez de repas pour pouvoir nourrir tout le monde.
Aline et sa mère se relaient tout le week-end au chevet de la presque centenaire. Les soignants désolés leur annoncent ne pas savoir quand elle pourra être transférée dans un lit.
Et en fait, elle va passer 64 heures sur ce brancard du vendredi soir jusqu'au lundi début d'après-midi où elle sera transférée. Les soignants, en fait, font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont.
Claire aura été hospitalisée un peu plus d'une semaine avant de rentrer chez elle, fatiguée mais en bonne santé. Avec plus de 200 passages par jour aux urgences du CHU de Rouen, cette histoire est malheureusement un exemple parmi tant d'autres.
Mais en tout cas, ce n'est pas une situation qui est exceptionnelle comme pourrait répondre la direction du CHU. Et on voit de la détresse pour les patients, mais aussi pour nos collègues soignants et médecins. Et ça ne se passe pas qu'au CHU de Rouen. Hein.
L'UNSA demande à l'Agence régionale de santé de Normandie plus de moyens, plus de lits d'hospitalisation et plus de personnel pour prendre en charge les patients.
La neige ce matin qui nous préoccupe et qui s'invite sur de nombreux départements, entraînant des conditions de circulation difficiles, comme vous le voyez ici, notamment dans le Doubs, au niveau de la RN57. On va faire le point tout au long de la matinée avec nos reporters présents dans plusieurs régions, et notamment on ira aussi en Normandie. Les températures, elles chutent, d'où notre question du jour à 7h10. Comment éviter la surchauffe pour nos factures d'électricité.
L'écho, on s'intéressera à la Pologne, au cas de la Pologne qui pourrait devenir d'ici 10 ans plus riche que la France. Il est bien loin, le cliché du plombier polonais, souvenez-vous, on en parlera avec Emmanuel. Vous restez avec nous, on est de retour dans moins de 2 minutes.
C'est un jeudi matin hivernal, on suit ces conditions météo polaires avec beaucoup de neige sur un certain nombre de départements. On sera avec nos reporters dans le journal de 7h30. Les températures, elles, ont chuté considérablement ces derniers jours. Et la tentation, du coup, est grande, Charlotte, de pousser un peu le chauffage à la maison. D'où notre question du jour, comment éviter la surchauffe de nos factures? Vous allez nous faire économiser plus de 100 euros par an.
Exactement, en 2 minutes. Alors, je me suis moi-même pris comme cobaye, mais ça fonctionne pour au moins 70% des foyers français qui sont au tarif réglementé ou indexé au tarif réglementé. Première étape, je prends une facture. Elle est pleine de chiffres, on n'y comprend rien. Je vais chercher 4 infos sur cette facture. La première, le prix de mon électricité. Il est de 19 centimes et demi par kilowattheure. C'est le tarif réglementé. 2, le prix de mon abonnement. En l'occurrence, 15 euros et quelques par mois. 3, la consommation. 10 000 kilowattheures par an à peu près. Alors moi c'est moins, mais là c'est pour que ça marche pour la démo, une famille moyenne dans une maison de 80 mètres carrés. Et je repère aussi une petite option, option sérénité, je ne sais même pas ce que c'est, 8,32 euros par mois. C'est ce qu'on appelle des frais cachés et faites attention car c'est très très fréquent, ça ne me concerne pas que moi.
Bon, une fois qu'on a récupéré tous ces chiffres, deuxième étape, il faut comparer les prix.
Exactement. Étape 2, je vais sur le comparateur du médiateur de l'énergie. C'est le plus fiable, comparateur.energie-info.fr. Je remplis mes infos, les infos qu'on me demande, où j'habite, ce qu'il y a sur ma facture, etc. On passe vite, hop, on clique sur « Chercher ». Et là, vous avez le résultat qui va s'afficher sous vos yeux. Pour la consommation que j'ai renseignée, j'ai une facture actuellement annuelle de 1943 euros, alors qu'elle pourrait être de 1820 euros chez un concurrent, soit 123 euros de moins, sans compter en plus la centaine d'euros d'options sérénité que je vais arrêter de payer tout de suite.
Bon, mais alors justement, vous parlez de sérénité, est-ce que c'est si facile que ça de résilier son contrat?
C'est hyper facile, il suffit d'appeler un opérateur, son opérateur, de dire « je veux cesser d'être chez vous, sachez ». Oui, alors ils peuvent essayer de vous retenir, mais sachez que vous pouvez résilier à tout moment, sans frais, quand vous voulez. Vous pouvez le faire demain, après-demain et quand ça vous chante. Petite étape quand même à faire au préalable, vérifier la réputation du fournisseur que vous repérez. Et puis, étape bonus pour votre vous du futur dans 6 mois. Regardez à nouveau si le tarif que vous avez est toujours intéressant parce que ça peut changer très vite. Je vous précise aussi que cette comparaison est tout à fait valable pour le gaz. Vous pouvez faire la même chose. Là, c'est l'électricité pour l'exemple, mais le comparateur marche aussi pour le gaz.
Donc, ne pas avoir peur de changer, faire jouer la concurrence.
Exactement, sachant que vous pouvez retourner chez EDF après, il n'y a pas de risque. Vous pouvez changer à tout moment de fournisseur sans aucun problème.
Bon, merci Charlotte.
Allez, on va partir dans le Cantal. On va vous emmener dans le Cantal ce matin où se tient en ce moment la foire chevaline de Morse, cette foire qui est au cœur d'une vive polémique après des révélations de maltraitantes. Regardez ces images qu'on vous propose ce matin, qu'on vous révèle ce matin sur BFM TV. Images difficiles, tournées en mai dernier par la fondation Brigitte Bardot. Elles avaient révélé, et vous le voyez, des scènes choquantes, des images de maltraitance. On y voit des chevaux frappés, réprimés à coups de bâton, image effectivement d'une extrême violence.
Ouais, elles sont très dures à voir et à la suite de ces révélations, il y a une charte de bien-être animal qui a été instaurée pour encadrer l'événement. Rebecca Blanc-Lelouch, vous êtes sur place aux côtés des militants de la Fondation Brigitte Bardot qui sont venus vérifier si les pratiques avaient depuis évolué.
Oui, tout à fait. La foire est en train de commencer en ce moment. Je ne sais pas si vous pouvez la voir sur les images de Valentin Rivolier. Mais en effet, l'objectif ce matin est de venir constater, voir dans quel état se trouvent les chevaux. Et puis de vérifier si les conditions d'organisation sont correctes. On est aux côtés de Damien Wolf. Vous êtes responsable des sauvetages et des équidés de la Fondation Brigitte Bardot. Et vous me disiez que vous, votre mission principale finalement, c'est d'aller très régulièrement sur le terrain. Et malheureusement, eh bien, il n'y a pas beaucoup de chances pour que le constat soit très positif. Positif ce matin ?
Oui, tout à fait. C'est la 5e fois qu'on se rend sur la foire de Morse depuis notre enquête de 2022. Et on constate systématiquement qu'en fait, en termes d'accueil et de bien-être animal, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il y a toujours des coups de bâton, beaucoup de chevaux qui sont entassés dans des cases, des juments gestantes qui vont à l'abattoir avec des poulains à terme, souvent dans le ventre. On a aussi des chevaux qui se bagarrent dans les cases. Enfin, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Et vraiment, aujourd'hui, aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est l'interdiction de ces foires. On est en 2025 en France et ici, c'est un peu le Moyen-Âge, quoi. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de considération, pas du tout même de considération pour les chevaux et il n'y a pas de respect de leur intégrité physique et psychique. C'est vraiment que de la marchandise, de la viande sur pâte. Et ici, on est sur un marché, pas d'animaux, quoi, plutôt d'objets, en fait, de marchandises. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on constate, oui.
Donc là, il est un petit peu plus de 7 heures. Qu'est-ce que vous attendez de cette matinée?
Bah ici, on va encore vérifier s'il y a des chevaux qui sont en mauvais état, parce que bon, il y a les chevaux de trait qui sont engraissés pour la viande, mais il y a aussi des chevaux qui de selle, comme on dit, qui sont souvent un peu maigres, blessés, avec des pieds non parés, etc. Donc on va refaire le tour, on va vérifier s'il y a bien de la présence de foin et d'eau aussi dans les cases, parce que malheureusement, il y a très peu de foin et d'eau dans les cases ici. Donc les chevaux, souvent, ils viennent aussi parfois d'Espagne, et ils vont repartir dans des camions poids lourds qu'on voit, hein, qui sont immatriculés Italie. Donc ils vont repartir en Italie pour l'abattoir. Donc ils ont des longs trajets comme ça, il n'y a pas d'abri. Il pourrait pleuvoir aujourd'hui, qu'ils seraient sous la pluie. Et voilà, on va vérifier tout ça ce matin.
Merci beaucoup Damien. Je rappelle rapidement les trois objectifs principaux de la Fondation Brigitte Bardot concernant les équidés. Le premier, c'est bannir l'hypophagie, c'est la pratique, le fait de manger de la viande de cheval. Le deuxième, c'est évidemment d'interdire ce genre de foire. Et enfin, le dernier objectif est d'obtenir le statut officiel d'animal de compagnie pour le cheval.
Elles sont terrifiantes, ces images. Merci Rebecca Blanc-Lelouch, merci à Valentin Rivollier qui vous accompagne à cette foire chevaline de mort dans le Cantal. On voulait ce matin vous parler d'un tout autre sujet, également cette étude qui a été publiée aujourd'hui, qui en dit long sur nos addictions aux écrans.
Ouais, quand ils regardent la télé, plus d'un Français sur trois dispose dans les mains d'un téléphone, c'est peut-être votre cas. Deux, parfois trois écrans simultanément, un phénomène, vous allez le voir, qui touche tous les Français. Laura Cambeau, Magali Chalet avec Alexis Rodriguez.
En rentrant chez elle le soir, Marie allume sa télévision, joue sur son portable et regarde même son ordinateur. Trois écrans avec lesquels elle jongle en permanence.
Des fois, je me dis, allez, pendant tout le film, tu touches pas ton téléphone. Et puis c'est fou, quoi, c'est plus fort que moi. Et je m'en rends même pas compte, c'est ça qui est fou, quoi.
Selon une étude, 90% des Français utilisent au moins un autre appareil en regardant la télévision. 32% la regardent même avec deux écrans en plus.
Ça touche tout le monde. En fait, même quand on creusait, il n'y avait pas tant de disparités qui se dessinaient entre les âges, même entre les genres, hommes, femmes, il n'y a pas tant de différences.
Conséquence, impossible pour beaucoup d'entre vous de se concentrer avec un livre, par exemple.
Une période où j'essayais de poser mon téléphone et de lire à la place. Ça a duré 3 semaines, je dirais. J'arrive plus à rester sur une seule chose à la fois. C'est pour ça que j'ai besoin des écrans, je pense.
Face à cette exposition aux écrans, les psychothérapeutes mettent en garde.
C'est l'incapacité à être là, à avoir des sensations sur un moment vécu sans être porté par le flux dont on est habité en permanence avec cette hyperconnexion.
Un phénomène qui peut entraîner une altération de la mémoire et de l'empathie, surtout chez les plus jeunes.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
Emmanuel, les Polonais seront bientôt plus riches que les Français. Comment expliquer ce miracle ?
Oui, songez que le revenu par habitant d'un Polonais dépassera celui d'un Japonais dès l'an prochain et que d'ici 10 ans, eh bien, les Polonais seront plus riches que n'importe quel habitant des pays du G7, hormis les Américains. C'est ce que nous donnent les projections de l'OCDE. Alors, la recette du miracle polonais, c'est la même que la recette du miracle espagnol ou portugais dans les années 90. Hein, la combinaison du retour de la démocratie, de l'économie de marché et de l'adhésion à l'Union européenne. Pour Varsovie, c'était en 2004 et depuis, la Pologne a été le premier bénéficiaire net des fonds européens qu'un État volontariste a utilisé pour moderniser le pays. Quand on parle fonds européens, c'est investissement, infrastructure, c'est la PAC évidemment qui a beaucoup profité aux agriculteurs polonais.
La Pologne qui est devenue la plaque tournante de l'industrie européenne.
Oui, la Pologne, c'est des salaires plus bas qu'à l'Ouest, une très forte productivité, un très haut niveau de qualification. Et tout ça a attiré massivement les capitaux étrangers pour y bâtir des usines, des plateformes logistiques, des data centers. Il y a plus de 270 groupes mondiaux qui ont fait de la Pologne leur base opérationnelle en Europe centrale. L'environnement réglementaire et fiscal est aussi très favorable à la création d'entreprises. Et puis, la hausse des salaires, la baisse du chômage, les aides sociales massives dans un pays très catholique ont dopé la consommation. En 10 ans, le salaire moyen a doublé, le salaire minimum a presque triplé, ce qui génère effectivement d'autres problèmes du type inflation, type prix de l'immobilier aussi excessif, qui font que beaucoup de Polonais ont du mal à se loger.
Intégration en 2004 en Europe, en 20 ans, la Pologne n'a pas perdu son temps. Merci beaucoup Emmanuel, vous restez avec nous dans le journal de 7h30. On continuera d'évoquer cette neige qui tombe dans de nombreux départements ce matin. Et nous serons notamment regardés en direct des Vosges à Gérardmer avec Kevin Drouan au volant d'une saleuse déneigeuse. 50 départements ce matin sont en vigilance jaune. Il est bientôt 7h30, merci de démarrer cette journée avec BFM Première. À la une, regardez les premiers flocons de la saison, ces images de neige, la neige qui s'invite depuis quelques heures sur de nombreux départements. Attention aux routes qui glissent, notamment dans l'est de la France. Nous serons dans les Vosges dans un instant avec Kevin Drouan.
Accompagner les Français en cas de crise majeure ou de guerre, réflexe, geste à connaître, kit d'urgence à constituer. Le gouvernement publie aujourd'hui son guide de survie, les détails dans un instant.
Les ministres de l'Intérieur et de la Justice attendus aujourd'hui à Marseille, une semaine après le meurtre de Mehdi Kessassi. Son frère Amine, militant engagé contre le narcotrafic, sera tout à l'heure l'invité d'Apolline de Malherbe à 8h30.
Vos rendez-vous culture internationale et politique à 7h40. Le pays veut plus de sécurité, nous dira Arthur Berda, tandis que trois quarts des Français estiment que les peines prononcées ne sont pas assez sévères, selon un sondage pour BFM.
Il faut se préparer à la guerre, il faut se préparer à la guerre et accepter de perdre nos enfants. Il est rare qu'un chef d'état-major des armées s'exprime de cette manière, et encore plus rare de façon aussi directe.
Invité à prendre la parole hier devant le congrès des maires de France, celui qui commande aujourd'hui toutes les opérations militaires du pays a tenu à faire passer un message aux élus.
Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut, dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Votre regard à 7h40, François, sur ces propos qui ont vivement fait réagir la classe politique en France. À gauche, le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, l'accuse de préparer des sacrifices, quand le communiste Fabien Roussel dénonce lui des propos va-t-en-guerre. Réaction virulente également au RN, où Sébastien Chenu, le vice-président, parle d'une faute. Selon nos informations, on reconnaît au sommet de l'État des propos peut-être maladroits, mais qui correspondent à la situation actuelle.
Oui, c'est en tout cas dans ce contexte de crise et de tensions internationales accrues que le gouvernement a décidé de publier ce jeudi son kit de survie, un manuel d'une trentaine de pages pour aider les Français à faire face aux situations de crise. Alexis Rodriguez, Eliott Fanco, Maquette Pichon avec Isor de la Corse.
Initié en 2021, ce guide baptisé « Tous responsables » verra le jour aujourd'hui à midi. Une trentaine de pages pour se préparer à tout, grâce notamment à ce kit d'urgence. Pour tenir 72 heures, prévoyez nourriture, trousse de premiers secours, vêtements chauds ou encore argent liquide. La base de la survie, selon ce spécialiste.
C'est juste être un petit peu prévoyant, quoi. C'est pas du tout anxiogène, hein, d'avoir un kit de survie, d'avoir un sac d'évacuation pour pouvoir tenir le coup si jamais il y a une catastrophe, quoi.
Quand un événement grave surviendra, une sirène retentira 3 fois pendant 1 minute et 41 secondes. Le guide insiste sur les gestes à adopter. En cas d'inondation, ne pas prendre sa voiture. Si un feu de forêt se déclare, bouchez vos évacuations d'air et les bas de porte. En bref, il faut prévenir tous les risques sanitaires, climatiques, voire même un conflit armé.
On aurait dit que la guerre est à notre porte, hein. C'est pas le cas, donc voilà. Mais j'espère quand même que bon, on n'aura pas besoin de tout ça.
Et je pense qu'ils font ça aussi pour prévenir, donc dans un sens c'est plutôt bien, mais personnellement, rien que d'y penser, franchement ça m'inquiète.
On ne sait pas ce qui arrivera demain, je dirais qu'il faut être préparé à tout.
Le fascicule sera mis en ligne sur les sites des ministères de la Santé, de l'Écologie ou des Affaires étrangères.
Allez, on va revenir, Perrine, sur les conditions de circulation un peu difficiles, rendues un peu difficiles ce matin, notamment par la neige dans l'est de la France. On est en direct de Gérardmer dans les Vosges. On vous retrouve, Kevin Drouan, à bord d'une saleuse déneigeuse en action ce matin.
Oui, effectivement. Alors ici, on est dans la moyenne montagne, on est plus ou moins habitué à la neige. Pour autant, les équipes n'avaient pas forcément anticipé tant de précipitations. On a mesuré entre 3 et 7 cm ce matin sur les routes autour de la ville de Gérardmer. Et je suis ici avec Sébastien. Du coup, bon, il y a évidemment un système d'astreinte. Pour autant, vous courez un peu dans tous les sens ce matin.
Oui, mais bon, c'est... Ça le fait. On va y arriver. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière.
Dans ces cas-là, j'imagine qu'il y a un ordre prioritaire. Vous allez sur certains secteurs en priorité. Il y a des choses à faire.
Oui, surtout les montées. Les montées en priorité. On essaie de faire aussi le centre-ville, avant qu'il y ait trop de circulation.
Merci beaucoup. Alors au total, il y a 120 km de rues et de voiries à traiter ici sur la seule ville de Gérardmer. Ce que vont faire les équipes jusqu'à 8h du matin. C'est l'objectif, c'est la date, l'heure butoir plutôt, celle de l'ouverture des écoles.
Merci Kevin. Ce manteau blanc qui recouvre la moyenne montagne du côté des Vosges, mais pas que. On a beaucoup de flocons, beaucoup de neige ce matin dans plusieurs départements, à la fois dans l'Orne, à la fois dans le Doubs, dans les Hauts-de-France. On est à Valenciennes aussi ce matin où il y avait des flocons avec des conditions de circulation difficiles.
Oui, on en a un petit peu partout. Hein. C'est le principe de la traîne et de cet air froid. Flocons également dans l'intérieur de la Bretagne, mais surtout dans l'Est. Regardez, je vais vous montrer deux photos. Ce sont les deux points noirs hein, routiers constatés ce matin. C'était tout à l'heure à 5h. Nous sommes ici sur la Nationale 5 à Savines, pas très très loin de la frontière suisse. Et voici la Nationale 57, là où est installée l'une de nos équipes, avec Marie Roux. Vous voyez qu'assez rapidement, là aussi, la chaussée est devenue toute blanche en raison des températures négatives. Donc Nationale 5, Nationale 57, parmi les axes les plus difficiles, vous avez aussi des problèmes sur la 89, on est dans la région de Clermont-Ferrand, sur la Nationale 164 dans le centre de la Bretagne ou encore sur la 11. Là, c'est un axe plus important, évidemment, entre Paris et Le Mans, avec des difficultés de circulation localisées en raison de ces averses qui déposent parfois des quantités de neige assez importantes. Regardez ces gros flocons observés encore cette nuit en Savoie. Merci Kevin. Laurent Nunez et Gérald Darmanin sont attendus ce matin à Marseille. Ce sera l'une des visites de la journée que nous suivrons évidemment sur BFM TV, un déplacement conjoint du ministre de l'Intérieur et du Garde des Sceaux. Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, son grand frère Amine, militant engagé dans la lutte contre le narcotrafic, a promis hier de poursuivre le combat. Il sera l'invité exceptionnel d'Apolline de Malherbe.
Un combat que l'État veut également porter contre les consommateurs. Hier, Emmanuel Macron s'en est pris, je cite, aux petits bourgeois des centres-villes qui financent le narcotrafic.
Ce plan de paix, également ce plan de paix proposé par les États-Unis en Ukraine, loin de satisfaire Kiev, il faut dire que le document reprend en grande partie les exigences de Moscou, en exigeant notamment des concessions majeures de la part de Kiev, dont la reconnaissance des territoires actuellement occupés par les Russes, la Crimée, le Donbass, mais aussi les régions de Kherson et de Zaporijja. Le plan prévoit également une réduction de moitié de l'armée ukrainienne.
Tout autre chose, à présent beaucoup plus léger, les plus belles femmes du monde qui ont rendez-vous la nuit prochaine en Thaïlande à l'occasion de l'élection de Miss Univers, et c'est Miss France 2024 qui représentera nos couleurs.
Oui, Eve Gilles, souvenez-vous, elle avait été couronnée, là c'était les images de son couronnement, il y a 2 ans. Elle avait les cheveux courts à l'époque et c'était une petite révolution d'ailleurs qu'elle avait fièrement assumée. Alors la cérémonie aura lieu demain soir à Quadrip. Quadrip, c'est en Thaïlande et c'est à 9000 km. Non, pardon, ça aura lieu à Bangkok, à côté de Bangkok. Je m'emmène les pinceaux. Elle est originaire du nord de la France, de Quadrip. Ah oui. Et la cérémonie, regardez, aura lieu en Thaïlande, à côté de Bangkok. Et dans son petit village du Nord, je peux vous dire que beaucoup sont prêts à faire une nuit blanche pour soutenir cette fierté locale. Regardez ce reportage.
C'est une véritable fierté dans cette commune du Nord, l'enfant du pays, sous les feux des projecteurs. Les habitants suivent son parcours depuis ses débuts, une femme humble malgré le prestige.
L'année où elle était Miss France, elle est venue plusieurs fois en roller chercher sa viande, mais on la reconnaissait difficilement, elle ne voulait pas se faire reconnaître. Elle est discrète comme toujours.
À la mairie, on ne cache pas sa fierté. Miss Univers ou non, pour le maire, le parcours de Eve est déjà une victoire.
On est dans un petit village rural et voyons, on est capable de produire Miss France. D'accord.
Donc ils sont heureux et étonnés, heureux, et voilà, si on va jusqu'à Miss Univers, bah, quoi demander de plus après, hein.
Un soutien en France, mais également en Thaïlande, où aura lieu le concours. Sa famille a fait le voyage pour l'accompagner et voir Eve dans son costume national, loin des plumes et des paillettes.
Sa marque de fabrique, c'est un petit peu les cheveux courts. Donc on a choisi le thème de Jeanne d'Arc, qui était une femme guerrière comme les Eve, une femme qui a défendu la France, et une femme qui a fini sainte parce que elle prenait également la paix.
L'élection a lieu la nuit prochaine. La grande gagnante sera connue vers 5h du matin, heure française. Eve Gilles pourrait bien devenir la troisième française sacrée Miss Univers.
C'est l'actualité de cette matinée, c'est l'une des actualités, notamment la neige. La neige qui tombe avec, regardez, des images de Pontarlier. Non, on n'a pas d'image de Pontarlier. Bon, ben on vous montrera dans un instant des images de Pontarlier. On va continuer avec la neige, Noël et cette ambiance hivernale.
Ouais.
On va aller voir les petits lutins et le Père Noël.
En Gironde, le secrétariat du Père Noël qui vient d'ouvrir à Libourne avec des sacs qui arrivent, avec des quantités de courriers, cette petite écriture enfantine. Et parmi les lutins qui sont chargés d'aider le Père Noël, eh bien on a notre Thomas Hermand international qui est là, qui est en train d'ouvrir les lettres. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent les enfants cette année? Qu'est-ce qu'ils disent au Père Noël?
Qu'est-ce que disent les enfants au Père Noël? Bah, déjà, ils nous disent s'ils ont été sages ou pas sages. Bon, bah, ça dépend un peu de vos enfants. Et non, et en fait, on peut penser qu'on demande que des cadeaux. Eh bien non, figurez-vous aussi qu'on peut parler un petit peu de sa vie, de ses attentes, si on a réussi son année ou pas. Il y a un petit peu tous les types de messages. 60 lutins tous les jours ici traitent vos courriers. Ce secrétariat du Père Noël qui a ouvert ses portes depuis hier. Vous pouvez donc envoyer votre courrier. On va retrouver Pascal ce matin. Bonjour Pascal. Bon, vous êtes chef des lutins. C'est quoi comme type de courrier depuis hier?
Alors, il y a un petit peu de tous les courriers des enfants, des adultes, des adolescents. Il y a même des courriers qui arrivent de l'étranger, puisque là, j'ai une lettre qui arrive de Chine.
Et vous répondez en anglais?
Oui, tout à fait. On a une réponse en anglais pour nos amis étrangers.
Est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait de courrier que vous recevez, par exemple, d'un enfant?
Voilà, alors là, j'ai un courrier d'un petit Ethan. Je m'appelle Ethan, j'ai 9 ans, j'ai été un enfant sage et je prends soin de ma petite sœur. Je l'aime beaucoup, je joue avec elle. Père Noël, j'ai bien fait le lit de ton lutin fripouille pour l'accueillir. C'est mignon quand même.
Et vous avez une soixantaine de lutins avec vous tous les jours?
Voilà, nous sommes à peu près 60 lutins et nous attelons à répondre à tous les enfants et tous les adultes qui nous écrivent et pour leur apporter de la magie.
Merci beaucoup Pascal. Je précise ici que vous pouvez envoyer donc vos lettres. Ça arrivera ici à Libourne ou en Laponie bordelaise, c'est comme vous voulez. Faut juste marquer Père Noël en fait sur l'enveloppe et puis après vous pouvez être créatif pour l'envoi de votre courrier. Regardez juste ici, nous avons le Père Noël ce matin.
Oh.
Il supervise le Père Noël, il regarde tous vos courriers.
Ah ben voilà, il s'est enfin réveillé le Père Noël.
Je précise quand même que cette initiative faite par la Poste... Cette initiative faite par la Poste existe depuis 1962. C'est pour vous dire que le secrétariat du Père Noël, eh bien, ça existe depuis une dizaine d'années. Et la semaine prochaine, on va traiter aller 30 000 lettres par jour.
Non, parce que quand même, faut raconter aux téléspectateurs qui nous rejoignent que maintenant, c'est que c'est un gros dormeur.
Le Père Noël, à
6h10, il était en train de dormir, il roupillait. C'était les petits lutins qui étaient en train de travailler. Merci Thomas. Merci à Vincent Serron, au secrétariat du Père Noël. Ça donne envie, ces images. Allez, tout de suite, vos rendez-vous politique, international, culture.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
La politique avec Arthur Berda, c'est une sorte de cri du cœur que vous poussez ce matin. Arthur, le pays a besoin de sécurité, besoin d'autorité à tous les étages.
Oui, parce que le budget occupe les débats, mais il n'occulte pas la réalité, celle que vivent les Français au quotidien et sur laquelle le dernier sondage ELA BFM jette ce matin une lumière crue. Les deux tiers du pays s'y disent inquiets pour leur sécurité et ils sont prêts de 70% à l'être pour leur famille. La question du trafic de drogue les préoccupe particulièrement et pour cause, les ravages du narco-banditisme n'en finissent pas de repousser les limites de la violence entre les zones de non-droit déjà contrôlées par des gangs et maintenant les exécutions d'intimidation comme celle du frère Kessassi à Marseille, en pleine ville, en plein jour. Plus rien ne retient ces caïds aux pratiques mafieuses. La faute notamment à la perte d'autorité d'un État qui a démissionné dans certains quartiers en choisissant de reculer par lâcheté plutôt que de mettre le paquet pour se faire respecter.
Alors Marseille qui concentre quand même l'attention du gouvernement en ce moment. Il y a Laurent Nunez, Gérald Darmanin qui seront sur place aujourd'hui. Vous n'attendez rien de cette visite ?
Et je peux d'ailleurs ajouter qu'il y aura bientôt Emmanuel Macron qui est lui aussi attendu sur place mi-décembre. Mais s'il suffisait de dépêcher des ministres ou de débloquer de l'argent pour régler le problème, eh bien cela fait longtemps que la cité phocéenne et une partie du pays avec elle seraient tirées d'affaire. Non, ce qu'il faut, c'est non seulement avoir le courage de regarder le mal en face, mais aussi la volonté de le combattre pied à pied, éviter que les territoires perdus de la République ne continuent de produire des générations perdues de la République, reprendre le contrôle d'une immigration dérégulée dont François Mitterrand disait déjà dans son temps que le seuil de tolérance avait été atteint, seuil de tolérance qui fait courir un double risque identitaire mais aussi sécuritaire puisque même le ministère de l'Intérieur documente désormais la surreprésentation des étrangers dans les faits de délinquance dans les grandes métropoles, une réalité longtemps niée par une classe politique aveugle qui a imaginé que fermer les yeux lui permettrait de se préserver alors que cela n'a fait que l'exposer à la montée du danger d'un côté, à la montée de la colère populaire de l'autre côté et puis entre les deux à la montée du RN.
Les deux tiers du pays se disent inquiets pour leur sécurité, d'après ce sondage. Et là, pour BFM, insécurité, délinquance, la France est-elle impuissante ? Ce sera l'objet d'un nouveau forum BFM ce soir à 20h45 autour de Maxime Switek.
François, vous nous parliez hier de ce que disait le ministre allemand de la Défense sur nos derniers moments de paix avant une guerre possible à venir de la Russie contre l'Europe. Et presque au même moment, hier, le chef d'état-major des armées devant le congrès des maires, le général Mandon, a parlé de la guerre à laquelle la France devait se préparer. Il a eu des mots très forts qui ont beaucoup fait réagir la classe politique. Il a dit avec le risque de perdre nos enfants. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?
Il a voulu dire en fait la même chose que ce que disent la plupart des grands chefs de services de renseignement militaire et chefs des armées de la plupart des pays d'Europe ou des pays de l'OTAN, à savoir que oui, il y a un risque de plus en plus élevé que nous soyons confrontés à une nouvelle attaque de la Russie. Rappelez-vous ce que disait déjà Thierry Burkhard 4 mois avant la guerre en Ukraine, lorsqu'il disait « il faut que nous, Français, nous nous préparions un jour à mener une guerre de haute intensité ». Et regardez ce que disait le général Mandon, pas hier, mais il y a un mois, devant la Commission de la Défense nationale, à propos du comportement de la Russie qui avait déjà mené 3 guerres sur le continent européen, la Géorgie, la Crimée et l'Ukraine. Regardez ce qu'il disait. Il disait « formuler le pari que de telles guerres n'interviendront plus sur notre continent revient à refuser de voir une partie du risque qui pèse sur nos sociétés ». Et donc, ce qu'il veut, c'est une prise de conscience. La force d'âme dont il parle, c'est le courage d'être lucide, de regarder les choses en face. Si un jour nous sommes attaqués, il faudra avoir l'esprit de défense, c'est-à-dire des militaires qui combattent à l'avant avec le soutien d'une population à l'arrière et qui devra faire des sacrifices. C'est la grande leçon, précisément, de la guerre en Ukraine.
Oui, mais alors pourquoi le général a-t-il décidé ? C'est une première, d'ailleurs, de s'exprimer devant les maires hier.
Parce que dans ce tableau très noir, hein, ce sont les termes qu'il utilise pour décrire la situation, il pense que les armées se préparent, effectivement, professionnellement, mais que l'opinion publique n'est pas prête. Et donc, les maires, ce sont encore les derniers élus qui ont l'écoute de leur population et que leur population respecte par rapport aux autres échelons de l'État. Regardez le rapport qu'il y a aujourd'hui entre les collectivités locales et l'armée. Lorsque vous avez en France pratiquement tous les départements qui sont concernés par la présence militaire, qu'il y a à peu près 300 000 Français qui servent aujourd'hui de près ou de loin l'armée, et qu'il y a 51 000 monuments aux morts. Sur ces monuments, il n'y a pas que les soldats de la guerre 14-18 ou 39-45. Il y a aussi nos soldats qui sont morts en OPEX et il y aura probablement un jour des soldats qui mourront face à la Russie. Il faut réarmer, il faudra apprendre à faire des sacrifices et c'est ce terme-là qui aujourd'hui doit mobiliser les Français.
Mais ces propos extrêmement forts passent mal auprès d'une partie de la classe politique. On l'entendra dans le journal de 8 heures.
Alix, c'est une curieuse rencontre, très curieuse, que vous avez fait hier et dont vous avez souhaité nous parler ce matin.
Oui, c'est une rencontre fascinante, troublante. Même, j'ai rencontré des momies hier au musée. C'était au musée de l'Homme, donc une grande exposition qui s'appelle Momies, qui vient d'ouvrir ses portes hier. Alors, dès qu'on entre dans cette exposition, il y a une toute petite salle avec tous les clichés, tous les stéréotypes autour des momies. Forcément, quand on pense aux momies, on pense tout de suite à l'Égypte antique,
à Toutankhamon,
pharaons, sarcophages, etc. C'est évidemment une pratique bien plus complexe qui touche tous les continents, toutes les époques. Et donc, le visiteur est invité à rencontrer 9 corps momifiés, des momies très différentes. Ici, vous avez la jeune fille de Strasbourg. Elle avait entre 7 et 11 ans. Elle date du XVIIe siècle. Elle est allongée, mais ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. On va découvrir maintenant l'homme Chachapoya, qui est originaire des Andes péruviennes. L'époque date du XIIe, XVIe siècle, et il était dans une position presque accroupie. Regardez.
Position très contractée, il est maintenu par des cordes, mais ça, c'est la façon aussi de l'inclure dans ce qu'on ne voit plus, c'est-à-dire l'enveloppe de tissu qui était autour.
Moi, ce qui me frappe, c'est l'expression de son visage.
Ce qu'il y a, c'est qu'on projette, nous, des émotions qui ne sont pas forcément le ressenti ou le voulu d'origine.
Alors, si je dis ça, c'est aussi parce que cette momie a inspiré des artistes. Le cri de Munch, voilà. Par exemple.
On n'en est pas certain, mais on sait que Munch a visité le musée d'ethnographie du Trocadéro. Et le rapprochement est tellement saisissant.
Alors, l'idée, et il faut vraiment bien le préciser, l'idée de cette exposition, c'est de réhumaniser ces momies, leur redonner une histoire. Il y a toujours des fiches explicatives, justement, sur leur identité, sur leur histoire, sur la manière dont ces momies ont été retrouvées, restaurées, conservées. On va voir une autre momie qui date du 6e, 7e siècle. Certains détails sont surprenants, en tout cas, moi, qui m'ont interpellée.
Ce sont ses vrais cheveux ?
Oui, bien sûr, c'est ses cheveux. Donc, elle a fait l'objet d'une restauration très complète qui a pris plusieurs mois pour effectivement nettoyer et d'une certaine façon retrouver sa coiffure, mais c'est sa frange. En fait, on restaure à minima. On n'introduit pas de produits, de colle, voilà. C'est un repositionnement, puis un nettoyage. On dit un dépoussiérage, mais bon, en fait, c'est plutôt une fouille minutieuse avec un micro-aspirateur et donc ça prend des heures, bien sûr.
Alors c'est évidemment extrêmement perturbant, c'est une exposition qui soulève aussi des questions éthiques, ce sont des corps, ce ne sont pas des objets, mais c'est très très bien fait. Très bien fait, c'est très respectueux. Chaque momie est dans une vitrine isolée, isolée du reste. Il y a même un rideau pour éviter en fait un choc trop frontal. Si on ne veut pas les regarder, on ne les regarde pas. Mais voilà, l'idée, c'est de rencontrer ces momies, rencontrer ces personnages, rencontrer des cultures différentes. C'est à découvrir jusque mai prochain.
C'est vrai qu'on a l'habitude de les voir sous les sarcophages ou sous les bandes et pas forcément comme ça. Vous me disiez même, c'est pas forcément une expo pour les... très jeunes enfants.
C'est à partir de 8-9 ans.
À partir de 8 ans, voilà, exactement. Merci beaucoup, Alix.
Restez avec nous dans un instant. Cette offensive hivernale, les premières grosses chutes de neige de la saison sur plusieurs départements ce matin. Regardez ces images en direct ici du Doubs. On sera également en Normandie. Il neige aussi dans le Nord. On fera un point complet avec Kevin, avec nos reporters sur le terrain. Circulation très difficile. Il y a 50 départements qui sont en vigilance jaune ce matin. Donc prudence si vous prenez la route.
Et puis invité du face-à-face à 8h30. Amine Kessa, militant anti-narcotrafic une semaine après la mort de son frère et alors que le ministre de l'Intérieur et de la Justice sont attendus dans la journée à Marseille. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, très bon réveil. La neige tombe ce matin. Opération de déneigement en cours en Auvergne, Kevin.
Oui, on n'est pas très loin de Clermont-Ferrand sur l'autoroute A89. Regardez ce chasse-neige qui pousse la neige vers la bande d'arrêt d'urgence. Restez prudent des conditions qui resteront hivernales cet après-midi. Sur une grande partie de la France, des giboulées de neige quasiment partout, sauf entre la région centre et la Méditerranée sous le soleil. Les températures ce matin, ça gèle. Méfiance au verglas sous ces chutes de neige.
C'était votre météo entre mer et montagne avec la Clémentine de Corse. Clémentine de Corse, chère et tellement corse.
C'était la météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France.
C'était la météo avec Generali. Préparez votre futur ici et maintenant. Generali, assurez vos vies.
8h, merci de démarrer la journée avec BFM Première. On est ravis de vous accueillir avec Dominique, une partie de la France qui se prépare, qui se part de blanc ce matin. Première grosse chute de neige de la saison, de l'Est à la Normandie en passant par les Hauts-de-France. De nombreux départements se réveillent sous les flocons avec des conditions de circulation difficiles. Prudence sur les routes, on fera le point avec nos reporters sur le terrain.
Dans l'actualité également ce matin, les propos chocs du chef d'état-major des armées qui appelle les maires à préparer la population à une possible guerre contre la Russie. Il faut accepter de perdre nos enfants, dit-il. Une déclaration qui provoque une vive polémique dans la classe politique.
Marseille attend des actes forts de l'État face au narco-banditisme. Gérald Darmanin, Laurent Nunez se rendent sur place aujourd'hui. Après l'assassinat de Mehdi Kessassi, ils rencontreront sa famille. Son frère sera l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe. Les conditions hivernales ce matin, la neige qui s'invite au réveil dans de nombreux départements, et ce ne sont pas des petits flocons mais bien des chutes de neige très importantes qui entraînent des conditions de circulation difficiles, notamment en Normandie, dans l'Orne, on l'a vu aussi dans les Hauts-de-France, en Auvergne. On a nos reporters qui sont déployés un petit peu partout.
Oui, bah justement, on va partir dans l'Orne retrouver Élise Philips. Il neige chez vous, Élise, quelle est la situation ce matin à 8h?
Eh bien, ici aussi en Normandie, les prévisions météo avaient vu juste parce qu'il a neigé cette nuit. Et à nouveau ce matin, aux alentours de 7h, pendant une vingtaine de minutes, des flocons qui sont tombés. Et on peut le voir sur ces images d'Agathe Pichon, cette neige s'est accrochée au sol, surtout là où il y a de la végétation, de l'herbe. C'est moins le cas sur les trottoirs et sur les routes où la neige a fondu, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que la circulation est fluide. Depuis ce matin, ça roule. Faut quand même faire attention parce que les chaussées sont glissantes. Mais avec le jour qui se lève, eh bien on peut distinguer aussi un peu mieux le paysage, ces parcs et champs qui sont recouverts d'une fine couche de neige ici ce matin, les toits des maisons aussi un peu plus loin. On est ici dans le département de l'Orne où la vigilance jaune neige et verglas est en vigueur depuis hier et jusqu'à tout à l'heure, 9h ce matin.
Merci Élise, merci à Agathe Pichon avec vous, paysage tout en blanc aussi du côté du Doubs où l'on vous retrouve, Marie Ron.
Oui, en effet, on est dans le village des Hôpitaux Neufs et le village s'est réveillé ce matin sous un épais manteau blanc. Il a neigé environ 5 cm. Cette nuit, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude et la neige tient parfaitement. Conséquence immédiate, eh bien, sur les conditions de circulation. Regardez dans le village, eh bien, ça coince. Les voitures avancent au ralenti pour rejoindre la RN57, cette route qui relie la France à la Suisse. On est avec Catherine. Catherine, qui, ça fait 30 ans qu'elle habite ici, elle a l'habitude. 39 ans, elle a l'habitude de voir la neige. Comment ça s'est passé ce matin?
Moi, très bien.
Vous avez quand même équipé vos chiens, on voit qu'ils ont froid par temps de neige.
Ouais, puis moi aussi, j'ai mis mes bottes et tout. Il faut s'habiller voilà, en conséquence, et puis voilà.
Ce que vous m'avez dit, c'est que ça a été très brutal, ce changement de température.
Ouais. Depuis hier, bon, on s'attendait, ils avaient annoncé des chutes de neige. Mais ça tombait déjà hier soir, gentiment. Hein.
Et surtout, la semaine dernière, il faisait 18 degrés ici.
18-20, ouais.
Catherine, on va vous souhaiter bon courage, même si vous avez l'habitude, pour ce début d'hiver qui s'annonce assez intense. Météo France prévoit d'autres averses de neige tout au long de la journée, avec une vigilance qui reste jusqu'à au moins 18h sur le Doubs.
Merci Marie, les bottes et les après-ski, on les a chaussées aussi un peu plus au nord, cette fois dans les Vosges. Regardez ces images en direct, la station de Gérardmer. Alors certes, on est en montagne, évidemment il neige en montagne, mais les prévisions, Kevin, sont un peu plus forte que prévu.
Oui, alors c'est vrai qu'on a quatre grandes parties de France qui sont concernées par malheureusement ces chutes de neige. Je dis malheureusement parce que ça induit des difficultés de circulation. Vous voyez en effet cette belle couche ici qui est tombée au-dessus des Vosges, mais ça induit des difficultés de circulation quand même importantes. On va les voir en détail sur plusieurs axes principaux. Des routes nationales, des autoroutes, par exemple Nogent-le-Rotrou, c'est pas très loin de l'Île-de-France, entre Paris et Le Mans. On a dû procéder à des opérations de déneigement. Et puis bien sûr, au niveau des reliefs, c'est très compliqué, Ardennes, Vosges, Jura ou Alpes. Vous revoyez voilà, ces images en direct à bord de saleuses. Et elles sont essentielles, ces saleuses, pour dégager les voies et surtout pour mettre du sel derrière elles, de façon à éviter la formation de plaques de verglas, parce qu'il y a un autre ennemi, lorsque l'hiver revient. C'est la neige, oui, mais ensuite le gel. Ça provoque de gros accidents, on le sait, notamment sur le réseau secondaire.
Malheureusement, vous dites pour les automobilistes, je pense que les enfants, en revanche, vont se réjouir avec des belles batailles de neige en perspective pour aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer sur le site de BFM TV vos vidéos de témoins de ces paysages enneigés ce matin. Dans l'actualité également, un chef d'état-major des armées devrait-il dire ça ? Nombreuses réactions après la déclaration choc de Fabien Mandon hier au Congrès des maires.
Oui, face à la menace russe, il estime que le pays, je le cite, doit accepter de perdre ses enfants. Des mots évidemment très durs, très forts, tenus par le plus haut gradé français et qui suscitent une vive polémique dans la classe politique. Hortense Gérard avec Mylène Argelès.
Sur un ton à la fois posé et grave, le chef d'état-major des armées alerte les maires de France sur la menace russe.
Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut, dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Tollé à la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon fait part de son désaccord total.
Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires, ni qui que ce soit, à des préparations guerrières décidées par personne. Ni le président, ni le gouvernement, ni le Parlement.
Indignation également du côté du Rassemblement national. Selon Sébastien Chenu, le général Fabien Mandon dépasse son rôle avec, je cite, ses déclarations alarmistes. Le propos a aussi déplu chez les Républicains.
Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on soit dans un combat contre Moscou pour le moment. Je ne suis pas sûre qu'il faille alerter et inquiéter les maires lors du Salon des maires.
Le mois dernier déjà, le chef d'état-major des armées avait pris à partie les députés de la commission de défense de l'Assemblée nationale, les appelant à se préparer à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie.
Arthur Berda, quand il dit qu'il faut accepter de perdre ses enfants, est-ce qu'il s'exprime en son nom, le chef d'état-major des armées, ou alors il parle au nom d'Emmanuel Macron?
Puisqu'on parle d'armée, je vais vous répondre les deux, mon général. En fait, la venue de Fabien Mandon devant les maires de France, il faut savoir que le gouvernement avait donné son feu vert, en l'occurrence le ministère des Armées, était d'accord pour qu'il s'y rende et pour qu'il s'y exprime. Alors au sommet de l'État, certains reconnaissent que son propos a été peut-être maladroit sur la forme. En revanche, sur le fond, rien à redire au sommet de l'État, parce qu'en fait, les soldats français, ils ont entre 18 et 27 ans. Et aujourd'hui, les soldats français, ils meurent. Il y en a eu une quarantaine depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Donc la France perd déjà ses enfants. Ce que dit Fabien Mandon, c'est qu'il faut regarder cette réalité en face. On l'a accepté hier, il faudra continuer à l'accepter demain.
Lui ne compte pas se taire face aux narcotrafiquants. Je suis là, je suis debout, levez-vous. Le message d'Amine Kessassi qui appelle à une mobilisation massive samedi pour la marche blanche en hommage à son frère Mehdi, assassiné à Marseille. Il sera l'invité d'Apolline de Malherbe dans quelques minutes.
Amine Kessassi qui pointe les carences de l'État. Justement, le gouvernement est attendu au tournant. Et il sera dans la cité phocéenne. Aujourd'hui, Alexis Puyette, on vous retrouve à Marseille, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nunez, pour une visite commune.
Oui, absolument. Deux ministres très attendus qui connaissent bien les problématiques marseillaises, puisque Laurent Nunez a été préfet de police ici entre 2015 et 2017. Et Gérald Darmanin, il est venu plus de 30 fois à Marseille quand il était ministre de l'Intérieur. Alors une visite qui va se décliner en plusieurs temps. Gérald Darmanin qui va rencontrer les autorités judiciaires ce matin d'abord à la prison des Baumettes et au tribunal judiciaire. Et Laurent Nunez, eh bien, qui rencontrera les élus locaux et les enquêteurs à l'hôtel de police cet après-midi. Il y aura deux temps forts. D'abord, une réunion ici à la préfecture à 11h40 avec la préfète de police sur la criminalité organisée avec les magistrats et les forces de sécurité intérieure. Et puis une rencontre avec la famille Kessassi à 14h, une famille lourdement meurtrie par le narcotrafic par deux fois. D'abord l'assassinat de Brahim en décembre 2020 qui était impliqué dans le narcotrafic et donc Mehdi jeudi dernier qui luttait contre le narcotrafic. Alors les Marseillais, eux, eh bien ils en ont vu beaucoup, hein, des ministres, des à Marseille depuis des décennies. Certains n'y croient plus. D'autres, eh bien, en appellent à l'État et en appellent à un sursaut populaire. Et c'est d'ailleurs ce que dit Amine Kessassi qui appelle à une grande mobilisation samedi à 15h pour la Marche Blanche.
Merci Alexis Pluyette avec Anne Boisise. Restez avec nous dans un instant, notre reportage exceptionnel ce matin. Alors que les autorités israéliennes refusent l'accès de Gaza aux journalistes étrangers, l'une de nos équipes a pu entrer dans l'enclave encadrée par Tsahal, seule porte d'accès aujourd'hui.
Et puis image en direct, regardez, de Gérardmer dans les Vosges. où il neige ce matin, comme dans une partie du pays, Normandie, est de la France. On fera le temps, on fera le point dans un instant, et notamment les conditions météo ce matin avec Kevin.
Et puis l'écho, la Pologne va-t-elle devenir le nouvel Eldorado des riches? Le niveau de vie pourrait dépasser celui de la France d'ici 10 ans. À tout de suite. Et vous nous parlez, Emmanuel, ce matin de ce nouvel Eldorado qui est devenu la Pologne, les Polonais qui seront d'ici 10 ans plus riches que les Français. Comment on s'explique ce miracle polonais?
Effectivement, le revenu par habitant d'un Polonais dépassera celui d'un Japonais dès cette année et dépassera celui de n'importe quel pays de l'OCDE d'ici 10 ans, sauf les États-Unis. C'est ce que disent effectivement les projections de l'OCDE. L'origine du miracle polonais, c'est un peu la même que celle du miracle portugais ou du miracle espagnol à la fin des années 80. C'est cette combinaison de retour de la démocratie, d'adhésion à la concurrence et d'adhésion au libre marché. C'était en 2004 pour Varsovie. Depuis, effectivement, la Pologne a été le premier bénéficiaire net des fonds européens et un État volontariste à utiliser ces fonds pour moderniser massivement le pays, ses infrastructures, ses technologies, son agriculture.
Au point de devenir aujourd'hui, Emmanuel, l'une des plaques tournantes de l'industrie en Europe.
Exactement, parce que la Pologne, c'est un cocktail gagnant, c'est des salaires plus bas qu'à l'Ouest, c'est une forte productivité, c'est des compétences technologiques élevées. Tout ça a attiré massivement les capitaux étrangers pour y bâtir des usines, des plateformes logistiques, des data centers. Plus de 270 groupes mondiaux ont fait de la Pologne leur base opérationnelle en Europe centrale. L'environnement réglementaire et fiscal est aussi très favorable à la création d'entreprises. Et puis, la hausse des salaires, la baisse du chômage, les aides sociales massives dans un pays très catholique ont dopé la consommation. En 10 ans, le salaire moyen a doublé, le salaire minimum a presque triplé, avec évidemment tous les problèmes qui vont avec, qui sont des problèmes d'inflation et de difficultés notamment à se loger.
La guerre en Ukraine a paradoxalement dopé le secteur.
Absolument, le pays a accueilli près d'un million de travailleurs ukrainiens, ce qui a soutenu la croissance dans un pays vieillissant. Avec la guerre, la Pologne est devenue un hub logistique, militaire, humanitaire. Les commandes militaires ont bondi avec la modernisation accélérée de l'armée qui est sous le contrôle de François, je parle, devenue la troisième armée la plus puissante de l'OTAN après les États-Unis et la Turquie. Donc en 20 ans, la Pologne n'a pas perdu son temps, elle.
Confirmation de François.
Après, c'est en volume et en effectif, parce que après, si on parle en compétences et en technologie, les Français et les Britanniques ne sont pas des manchots.
Merci Emmanuel. Allez, restez avec nous dans un instant. L'invité d'Apolline de Malherbe, invité exceptionnel, Amine Kessassi, qui répondra aux questions d'Apolline après avoir enterré son frère qui a été tué à Marseille.